Je crois que c'est à moi. Alors d'abord, il faut que je retrouve la caméra. La caméra, elle est là. Ok! Comment ça va? Bah, désolé, je voulais commencer plus tôt et puis une info nous est tombée dessus. Le rapport de la commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public qui était annoncé pour hier a été repoussé à aujourd'hui et il est tombé là. Alors du coup, il y a plein d'articles de la presse en ligne qui tombent. Voilà, et du coup, ça m'a un peu ralenti. Je suis allé voir vite fait. Vite fait, ce qu'il y avait dedans. Advil me dit, le rapport a été publié à 6h55. J'ai vu ça quand je me suis levé à 7h30. Ah bah ouais, 6h55, j'étais en train de courir. Ah bah ouais. Puis après, je suis rentré et je me suis douché quand même. Puis après, j'ai emmené les enfants à l'école. Et après, je suis arrivé ici. Et puis, j'ai vu dans le chat les gens qui ont commencé à en parler. Et il était sur France Info 7h40. Eh bah dis donc! Merci Gougounès pour le soutien. Oh, les insomnies, c'est chiant ça. Merci le jeu de la vie pour le 24e mois, c'est adorable. Merci Mondraco pour le 24e mois également. Merci AdrogueGamer pour le 31e mois, ce qui est beaucoup. Merci Action aussi pour le 3e mois. Il y a 3 minutes. As-tu vu l'archive de Quotidien hier où on voit Jérémy Patrilétus participer à Question pour un champion quand il était jeune? C'était moi qui animais ou c'était Julien? Incroyable. C'est fou ça. Incroyable. 9h30, conférence de presse ouais, du président de la commission. Ouais, j'ai vu. Je suis pas sûr qu'elle soit en direct, celle-là. Je suis pas sûr qu'elle soit. Je sais pas où on peut la trouver. As-tu regardé Samuel la cérémonie des Molières hier soir, me dit Mirzella. Il y avait une séquence exceptionnelle de parodie de la commission de l'audiovisuel public. Il y avait même la carafe d'eau. Excellent, excellent. Ah, j'ai pas vu. Incroyable. J'ai flippé en voiture tout à l'heure, j'étais au feu et je tourne la tête et paf, je vois une télé sur LCP. Me dit Yo-Yo Man avec à l'oncle en gros plan. J'ai vite décampé. Faut pas avoir peur, il mord pas. Hein. Il mord pas. Hein. Merci Raph Beren à l'instant pour le soutien. Merci Warren Buffett. Hein, c'est comme Warren Buffett, mais avec un petit mélange. Joli. Merci pour l'abonnement faire la commu. Gougoun. Ah, Gougoun, c'est des tongs au pluriel au Québec. Alors, on ne prononce pas le S. Hein, c'est pas Gougounet, c'est Gougoun. Ok. À pas confondre avec comment on dit les. Au québécois, les. Attends. Non, les. Comment on dit les. Pardon, comment on dit les couilles au québécois? Les gosses. Ils disent les gosses. Depuis le temps, je vous dis qu'il faut pas dire les gosses quand on parle des enfants. Québec, les gosses, c'est les couilles. Tom Thompson. Tom Thompson, mais je l'ai pas ton. Ah si, si, il y a une heure. Il y a une heure. Merci Tom Thompson. Tom Thompson qui râle parce que j'ai pas vu son sub d'il y a une heure. Surtout qu'on en a trois. Quoi? Quoi? Des, hein? Quoi? Trois quoi? Hein? Waouh! Ok. Bon, heureux de vous retrouver en tout cas. Bon, alors, ça va être une revue de presse longue. Tu es cité dans le rapport. Oh, on va pas lire le rapport ce matin. Ce matin, on va lire vite fait les résumés dans la presse du rapport qui vient de. Parce qu'à mon avis, aucun journaliste, si ça a été publié peu avant 7h ce matin, n'a eu le temps de lire, même si mes camarades lisent très vite, n'a lu les 300, 400, 500 pages, je ne sais pas combien on est. On est à combien officiellement d'ailleurs? Donc nous, on va prendre le temps, on va lire quelques articles de réaction. On va avoir les réactions aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnalités publiques, y compris le Premier ministre, M. Sébastien Lecornu, qui a déjà réagi, et qui. 400 pages, et qui n'en dit pas que du bien, d'ailleurs, c'est marrant. Je m'attendais pas à une réaction du Premier ministre himself, qui dit vite fait, je sais pas ce qu'il dit. Il dit quoi? Une occasion manquée. Ah! 551 pages. Ok. 551 pages. Waouh! Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler vite fait ce matin, en mode revue de presse. Voilà, genre une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis on fera un stream dédié, peut-être cet après-midi, peut-être ce soir, peut-être ce soir, peut-être ce soir, ce qui va me motiver pour bosser sur MVP, parce que demain on a un joli MVP comme vous le voyez. Oui, Delphine Ernotte a réagi aussi, ouais. Il y en a qui ont eu le rapport avant les autres, hein, parce que Delphine Ernotte elle a répondu très très tôt ce matin, elle a réagi très très tôt. J'ai l'impression que certains ont eu le rapport un petit peu avant, donc comment tu peux réagir de façon à 500 pages Remarque, ouais, remarque, il est 9h, 9h40. Le truc est sorti à 7h. Ouais, remarque, ouais. 551 pages, dont 480 pages de dessins, tweets et gribouillages. À mon avis, ça, c'est une fausse info, ça. On peut, oui, on peut faire une soirée là-dessus, ouais. Ah, résumé en IA, j'espère pas. Elle a juste eu à lire les propositions. Ah oui, remarque, il y a tout. Ah oui, il y a tout le côté proposition qui tient en beaucoup moins de pages. Oui, c'est logique ce que vous dites. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dernière matinée seule avec toi, Samuel me dit Ariette, demain matin va naître mon troisième bébé. Oh! Mais si tu fais un live ce soir, je te regarde de l'hôpital. Oh, félicitations, c'est trop chaud! Non, bah on fera un stream ce soir. Ok, ce qui va me motiver à bosser sur le MVP cet après-midi. Ok. Revue de presse. Oh, Grégorio, merci beaucoup pour le soutien à l'instant pour le 9e mois. Merci beaucoup, Isara Kiri. C'est marrant parce que ça fait 9 mois pour Grégorio, alors qu'Ariette attend son troisième. Hein, c'est pas beau ça? Merci Isara Kiri également pour ce 56e mois, ce qui est énorme. Merci Aurélien pour le 36e mois. Merci Momstone pour l'abonnement offert à la commu. Merci encore Raph Beren. Merci encore Baren Wafet qui remet ça. Merci à toi. Le petit Grégorio. Oh, arrêtez, bordel. Non, c'est pas le petit Grégorio, c'est Grégorio. DXD. Contrôle F peut être utile pour chercher quelques trucs spécifiques. Ah oui, je peux faire un contrôle F, Samuel. Certains me disent que je suis cité à 5 reprises. Sûrement pour dire des choses très intelligentes, très pertinentes et tout à fait vérifiées. J'espère pour lui. 9 reprises! Oh, waouh, quelle star! 9 reprises! Eh bien, ça m'intéresse. On lira ça, je dis on lira ça, parce qu'on est plusieurs, avec beaucoup d'intérêt. Ah, Masseglia, et le président me cite aussi. Ok. Bonjour Samuel, Barbu et la co. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, vite, mais bon, demain matin, je serai rasé et demain, il y a MVP. Merci, Toria la chaîne. Merci, merci, petite Pierre. Merci à tous les deux. On peut le trouver où? Sur le site de l'Assemblée. Je suis allé sur le site de l'Assemblée, j'ai tapé... Dans Google, tu tapes commission audiovisuelle publique, tu tombes sur la page... Sur le site de l'Assemblée consacré à cette commission, est un lien. Certains disaient que ce matin que c'était dur de le télécharger. Ah, ils mettent en porte-à-faux à l'oncle vis-à-vis de ses propos. Grief numéro 5, Samuel Etienne et ses prises de position sur Twitch contre le RN. J'ai pris des positions contre le RN, moi. Ben, je voudrais bien voir la citation. Je voudrais bien voir la citation. Avec plaisir. Ah oui, c'est le fameux truc de rappeler que le RN n'a parti d'extrême droite. Ah oui, c'est ça, la prise de position contre le RN. Maintenant, il va falloir en poursuivre du monde, hein. Enfin, en poursuivre du monde. Enfin, il va falloir poursuivre le Conseil d'État, le ministère de l'Intérieur. Bon, ça fait du taf. La quasi-totalité des journaux français. Nom de Dieu. Hein? J'espère que Monsieur Alloncle est prêt à mener un combat qui va durer un petit moment. Merci, Bisounours radicalisé. Les Béru aussi. Ah ouais, les Béru, ouais. Enfin, il parlait du FN, les Béru, non? Les Béru rayés noirs. C'est longtemps. De ce que j'ai lu, tout le monde se désolidarise et il y a des propos peu élogieux sur la gestion d'Alon quant à son enquête. J'ai le sentiment que le vent est en train de tourner très très fort, ouais. Effectivement. On a combien de plaintes contre Monsieur Alloncle? Deux, c'est ça? Ok. Ah ok, bon, ce matin on va passer en revue rapidement là-dessus. Donc on va voir un petit peu ce que dit la presse et ce que disent les personnalités éventuellement concernées, puisqu'il y a la réaction de Lecornu par exemple, la réaction de la présidente de France Télévisions du sujet. Et puis on fera un vrai stream ce soir où je sais pas si on se tapera les 400, les 500 pages, enfin on fera un truc quoi. Merci à Trigledine pour le message. Merci Pierra, Pierra 2809, à l'instant. Le site de l'Assemblée est en PLS, c'est fou ça. Est-ce qu'un rapport a déjà eu autant de succès? La question juridique, quand on porte plainte contre X, c'est pas contre Alloncle. Quand on porte plainte contre X, c'est qu'on porte plainte contre toute personne qui peut se retrouver dans le texte de la plainte. C'est une plainte au sens large. Ça peut viser une personne comme des milliers. C'est l'avantage d'une plainte contre X. Ça va en faire un stream ce soir. Pop, pop, pop. Il va durer combien de temps le stream de ce soir si on se tape les 500 pages là? Voilà, là, là, là. On va voir. Je vais le télécharger cet après-midi. Je veux pas le télécharger maintenant parce que j'ai peur que ça nique Mako et que ça affaiblisse le stream. C'est ce qu'a fait Ultia contre ses cyberharceleurs. Ouais, c'est ça, je pense que ça va être une plainte contre X, ouais. Ouais, tout à fait. Hey Bardino, j'ai vu ton mail, hein. T'inquiète. J'ai pas trop d'idées, mais j'ai vu ton mail. Oui, retour de MVP demain. On commence par ça? Ok. Donc, retour de MVP demain. La belle affiche. Vous êtes déjà 2000? Waouh. Alors, regardez, on a qui demain? On a. Waouh, que des bons, hein. Mimi Hegel, une habituée, ancienne journaliste, créatrice de contenu, passionnée d'actu. L'ami Simon Puech, créateur de contenu, passionné d'actu. Le bon gars, on l'adore. Ludovic B, le pilier. Voilà. Je les aime bien. Et alors? J'aime bien mes amis de Webed qui font les visuels. Oh, Charles-Henri à l'oncle vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. Tu regardes mon Charles-Henri. Et là, je pense que les amis de Webed ont quand même choisi la photo de moi où je suis le plus en mode gastro quand même. Oui, moitié Trump, moitié Trump, moitié j'ai envie d'aller faire caca quand même. Waouh! Comme disait, j'avais des amis qui disaient ça quand on était jeunes. C'est pas un balai qui est dans le cul, c'est pas un balai qui est dans le cul, c'est pas un aspirateur, c'est une usine de nettoyage. Waouh! T'es moitié moitié orange, moitié j'ai la chiasse, quoi. Elle est magnifique cette photo. Oh là 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 là. Attends, on va zoomer même encore un peu là. Ah oh, nom de Dieu, le petit sourire coincé en disant putain, vas-y, prends la vie de ta photo, faut que j'aille déposer une pêche, moi je sais pas si je vais tenir. Hein? Oh là là, elle est terrible cette photo. Ça m'a toujours fasciné. Donc, tu fais des séances photos, t'as des centaines de photos. Hein. Des centaines de photos. Et t'as régulièrement des gens qui arrivent à prendre la photo qu'il fallait pas. Je pense que les. Là, par exemple, vous êtes quand même 2000. On a 2000 personnes qui. D'après les réactions que je vois dans le chat, il y a quand même beaucoup de personnes. 2000... Dans les 2000, il y a quand même beaucoup qui disent que cette photo, c'est ni fait ni à faire. Eh ben, pas la personne qui a fait le visuel. La personne qui a fait le visuel, elle est très bien cette photo. Non, non, t'as pas du tout l'air coincé. Non, non, ça, on n'a pas du tout l'impression que c'est ta statue du musée Grévin ratée. Ouais. Alors qu'il y a des très belles photos, hein, je sais, j'en ai fait une sélection. Je peux vous dire que celle-ci, elle n'est pas dans la sélection que j'ai faite, hein, je peux te dire. Ouais. Enfin bon, ça, c'est un mystère, ça. Depuis 30 ans que je fais ce métier, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Mais pourquoi vous choisissez cette photo? Bon, peu importe, l'émission serait sympa. Dans les thèmes de demain? Dans le MVP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas MVP, c'est ma vie pro. C'est une émission 2 fois par mois sur ma chaîne. C'est une émission qui se propose d'explorer les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Voilà. T'es au collège, t'es au lycée, t'es étudiant, tu sais pas trop ce que tu veux faire plus tard. Bam, c'est ton émission. Tu travailles déjà, mais t'as envie de te réinventer. Tu te plais peut-être pas trop dans ton secteur d'activité, ton entreprise. Bam, c'est ton émission. À toi aussi. T'as pas d'emploi et t'aimerais bien en avoir. Hein. Bah, c'est aussi ton émission. Bref, c'est l'émission de tout le monde. Elle est cool. Elle est 2 fois par mois. Elle est avec une belle bande de potes. On a les chroniqueurs que vous voyez ici. On a des invités. On a un invité mystère dont ils font découvrir le métier. Je vous dis pas, je vais pas spoiler bien sûr. Il y a des petits jeux autour de l'actualité, autour du, je sais pas, du droit du travail, des opportunités d'embauche, des secteurs qui recrutent, des métiers qui évoluent. Voilà. Des petits jeux comme ça. Et puis parmi les principales thématiques demain, c'est on va notamment se pencher sur l'évolution de la manière dont on s'exprime. Dont on communique au sein d'une entreprise. Voilà. Hein, de plus en plus de mails, peut-être qu'on se parle moins directement. Tiens, la folie des réunions, il faudrait qu'on parle de la folie des réunions. Si, est-ce que vous mettez des émotes dans vos messages, dans vos mails, à vos collègues? Voilà. Va chier cordialement. Bah, ça, je le mets pas, ça, par exemple, tu vois. Ouais. Zartmo, hello, elle est pas très clean sur la transparence des sponsors. Par contre, tu parles de l'émission, Zartmo? Fais voir. T'as raison, Zartmo. Putain, Zartmo, mais t'as raison. Mais attends, mais là, il n'y a pas de sponsor, là. Il n'y a aucun sponsor. Bah attends, Zartmo a mis le doigt sur un truc, là. Ah bah oui, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas de sponsor. Ouais, c'est pour ça. C'est parce qu'on n'a pas de sponsor. Ouais, on va encore perdre de la thune. Ouais. Désolé, Zartmo a failli commencer une carrière de débunker. Hein, d'enquêteur, et puis c'est raté. Ah, j'aurais bien voulu vous mettre des petits logos là, par contre, ça ferait un peu de thunasse, mais il n'y a pas là. Ouais, y a les émissions qui ne sont pas sponsorisées, c'est comme ça. Autre chose? Zartbo qui rigole, au moins il pense ça avec humour. Ouais, bah là on peut pas vous en inventer, hein. Je voudrais bien vous en mettre pour faire plaisir, mais je ne vais pas vous mettre des sponsors s'il n'y en a pas quoi. On a failli partir sur Mediapart, et puis non, finalement, c'était CNews.
Raté.
Non, c'est hyper transparent. Là-dessus, on rigole pas. Un sponsor, un hashtag collaboration commerciale, c'est marqué dans le titre. Bim bam, les logos, émission en partenariat avec truc. D'ailleurs, ça fait un petit. Ça fait un petit moment. Tiens, Zartmo, file-moi des infos, tiens. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'a pas fait de sponsor sur ta mission. Il faudra faire de la thunasse. Oula, je suis sur ton historique, mon Zartmo. Dis donc, il n'y a pas que. T'es fâché, toi, de nature, hein? Ah, t'es... Aïe, 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 aïe. Ah oui, t'es... Ah, oui mais t'es enquêteur, toi, en fait? T'es enquêteur depuis longtemps? Comment ça se passe? Ouais, j'ai un enquêteur dans la commune, là. Excusez-moi, je prends un instant, là. Ah, mais... Ouf, je vais lancer les subs qui arrivent, là. Attention, on ne saute pas trop les subs, parce qu'il y a Zartmo qui va déclencher une enquête, hein. Ah, mais tu nous avais déjà parlé de ça, toi. Ah, mais c'est un truc récurrent, alors. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, mais c'est... Oui, mais c'est un combat. Ah. Ok. Ah oui, l'armée, tout ça, ok. Ouf. Oh bah dis donc. Et sinon, l'actualité t'intéresse pas, toi? T'es plutôt sur ces trucs-là? Ok. Ok. Mais c'est bien. C'est bien de s'occuper. Wow. Wow. C'est comme lire le... Wow. Ouf. 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 Oh, y a rien qui va. Bon, oh, merci Martin. Si vous cherchez un DJ le matin, le meilleur DJ de Twitch s'appelle Martin, il vient de Red. Si les modos, vous avez le temps d'épingler la chaîne de Martin qui vient de Red. Ouf, oh, les conseils sur la vie de famille. Ouf, ouf, ouf. Oh, de quoi je me mêle. Oh, nom de Dieu. Ouh, les Pégases, j'avais pas vu. Ouf. Oh là là. J'ai toute ma vie qui défile, là. Ok. Ok. Bon, pardon, excusez-moi. Je me suis laissé distraire. Merci, Martin. Comment ça va la vie, Martin? Martin. Meilleur DJ de Twitch. Meilleur matinal pour se réveiller. De l'énergie, de la bonne humeur. Je sais pas comment on fait, Martin. Toujours de bonne humeur. Il est. T'es toujours aussi sportif ou pas? C'est un fou de sport. Espèce de dieu grec. Et vous avez la chaîne qui est épinglée. Merci Sugar. Toujours aussi sportif. Merci Cherge. Merci Quentin Cartier. Merci FDP pour fleur de peau. J'adore ce pseudo. FDP pour fleur de peau. Merci Terlopop. Merci encore Charles-Henri Allon pour les 5 moments offerts à la commu. Je confirme, il régale avec ses mix, mais je sais. Il fait toujours du sport, toujours. Martin, tu fais toujours du sport à fond. Je sais pas comment il fait, mais il est gaulé comme ça, comme un triangle. Incroyable. C'est tout sec, tout incroyable. Ah, puis il y a la Ligue des Champions qui arrive là mercredi. Je vous mets le sommaire pour vous sachiez un petit peu de quoi on va parler ce matin. Il est où? Là, il est là. Voilà. Martin, toujours aussi sportif, me dis-tu, je sors d'un 14 km de Biarritz. Oh, ça devait être bien ça. Oh, je vais à Biarritz bientôt. Et toi, toujours aussi sportif? Non, je viens de reprendre. J'avais arrêté longuement à cause de la paternité et puis du taf. Et là, ça y est, depuis hier, je m'y remets une petite heure de running à 2 à l'heure tous les matins avant d'emmener les enfants à l'école. Merci Martin, c'est toujours un plaisir de te lire. Tu mets toujours une belle énergie. Et tes raids me font toujours très, très plaisir. Vraiment. Ah, ce soir, il y a Arsenal? Arsenal Atlético ce soir? Ah, donc demi-finale retour ce soir? Ah, donc ça veut dire que demain, ce soir, on connaîtra l'adversaire. Allez, du PSG, les gars, soyons optimistes. Hein? Parce qu'il y a donc Bayern PSG, retour. Match retour demi-finale Ligue des Champions demain soir. Donc en Allemagne, sur la pelouse du Bayern. On rappelle, c'est quoi le score? Elle est 5-4 pour le PSG. C'est ça, j'ai pas de bêtises. Donc il faut que le Bayern gagne avec 2 buts d'écart pour se qualifier. Ah, t'es de ce côté-là? Alors je vais en coup de vent, Martin, mais c'est ça? Ok. Allez, on va être optimiste. On va essayer de pas leur porter la poisse non plus, de pas trop en parler. Mais on en parlera à la fin de cette revue de presse. Je vous ai mis un petit truc. PSG J-1. Oui, ou prolongation avec un but. Ah oui? Prolongation avec un but, il se qualifie? Pourquoi? Il y a Vibmax qui me dit, si le Bayern fait prolongation avec un but. Attends, s'ils mènent d'un but d'écart et qu'ils sont en prolongation, ils se qualifient? C'est quoi cette règle? Pourquoi? Non. Ok, non. Non, on me dit non dans le chat. J'ai du mal à comprendre le message. Non, t'as du mal à comprendre. Ou alors le message était mal écrit surtout. Bah, où? Bah, regarde, Vibemax écrit oui ou prolongation avec un but. Alors, je sais pas comment tu dois le comprendre, mais. Si égalité sur les deux matchs au bout de 4 minutes, prolongation et tir au but. Ah, il faut toujours 2 buts d'écart, même en prolongation. Non, on est d'accord? Même si on va aux prolongations, il faut toujours 2 buts d'écart pour le Bayern. On est d'accord? On est d'accord. On est bien d'accord. Sinon, penalty. Alors imaginons que le Bayern ait un but d'avance à l'issue des prolongations. Là, penalty. On est d'accord. Et Vimax est d'accord aussi. Okay. On va suivre ça. Hein. Ce serait incroyable, une deuxième finale d'affilée. Peut-être même troisième. Ouais, Sartre, ouais. T'inquiète. Ouais. Monsieur Mediapart, là. C'est pas la troisième finale d'affilée, d'ailleurs, parce qu'ils ont gagné l'an dernier. Mais l'année d'avant, le PSG n'était pas déjà en finale. Ce serait pas la troisième. Non, ce serait pas la troisième finale d'affilée. Non, je dis une bêtise. Non. Troisième demi-finale. Okay. Ce serait incroyable, hein, vous imaginez? Ce serait incroyable, une troisième. Une deuxième victoire. Déjà une deuxième finale. Une deuxième victoire. Tout le monde dit que le match PSG-Bayern, c'est la finale avant la finale. C'est-à-dire que normalement, le PSG et le Bayern, sur le papier, sont plus forts qu'Arsenal et Atlético. Même si ça veut rien dire sur un match, bien sûr. C'est incroyable. C'est cool pour les supporters du PSG. Dont je suis pas, hein, moi, je suis un footix. Hein. Moi, je dois supporter une équipe, c'est le Stade Rennais, qui fait une belle fin de saison d'ailleurs. Non, la règle des buts à l'extérieur, Kazoukou, je crois qu'elle n'existe plus. Bon, mes amis, trêve de billevesée, trêve d'introduction, même si j'adore discuter avec vous. Merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes prêts pour le sommaire? Hein, avant le sommaire, j'ai envie de faire un petit passage quand même par la pétition. Je suis très très fier de vous, très fier de ce qui se passe. La semaine dernière, en milieu de semaine dernière, quand j'étais au Maroc, lors d'une revue de presse. On a lu un dossier du Parisien. Je vous épingle le mail de la pétition. On a lu un dossier du Parisien sur les féminicides en France, sur le fléau des féminicides en France, pour se rendre compte que, il y avait encore énormément à faire. Alors que pourtant, on a sous nos yeux un modèle, le modèle espagnol, l'Espagne qui, il y a 20 ans, a décidé de lois, de mesures, voilà, a mis des moyens que nous n'avons pas mis en France pour lutter contre les féminicides, avec des résultats. Voilà. Donc, on sait ce qu'il faut faire. On sait quelles mesures on pourrait prendre. Des mesures ont déjà commencé à être prises d'ailleurs en France, mais le problème, c'est les moyens qui ne sont pas suffisants. Moyens donnés à la justice, moyens donnés également pour que les plaintes des femmes à la police ou à la gendarmerie soient mieux prises en compte. Donc on a lu ce dossier avec beaucoup d'intérêt. Et puis dans nos recherches, on s'est posé la question de savoir si il y avait déjà eu une commission d'enquête à l'Assemblée sur le sujet. Comme il y a des commissions d'enquête sur beaucoup de sujets, on s'est dit. S'il y a bien un sujet qui mériterait une commission d'enquête parlementaire, pour qu'il y ait un débat, pour qu'on entende les victimes, les responsables judiciaires, policiers, les associations sur le sujet, bah, c'est bien sur les féminicides. Et on est allé voir, et qu'est-ce qu'on a découvert? Paf! Jamais eu une commission d'enquête sur le sujet. Ah merde! Bon, et qu'est-ce qu'on a découvert aussi? Que quelqu'un avait lancé une pétition pour réclamer eh bien cette... Où est-ce qu'elle est? Cette commission d'enquête parlementaire. Voilà. Ici, on s'est dit, ah, il n'y a jamais eu de commission d'enquête, mais il y a une pétition sur le site de l'Assemblée pour demander cette commission. Et quand on s'est rendu compte la semaine dernière, mercredi ou jeudi, que cette pétition existait, on s'est rendu compte qu'elle avait 112 signatures.
Combien ?
112 signatures. En 4 mois. Voilà. Et là, on s'est dit, c'est pas normal. Et donc, on s'est dit, eh ben, on va en parler. On va en parler nous. On va en parler autour de nous. On va en parler à nos streamers, à nos streameuses préférées. Voilà. Et on est passé en moins d'une semaine, hein, parce que je crois qu'on l'a découvert jeudi, je crois. Cette pétition. On est passé de 112 signatures à 8702. Voilà. Et je me rappelle, la semaine dernière, on s'est dit, et pour faire monter cette pétition et ses signatures, il faut en parler autour de nous. Il faut en parler notamment à nos amis streamers et streameuses, à nos amis créateurs et créatrices de contenu. Et vous m'avez rapporté que Ponce en a parlé, que Étoile en a parlé, puisque hier on l'a raid et on lui a dit « Ah, ce serait bien que tu te penches là-dessus ». Il a dit « Oh, mais Samuel, qu'est-ce que tu crois? Tu me prends pour qui ? Ah, j'en ai parlé avant toi ! J'en ai parlé ce week-end !» Bon, merci Rayou. Rayou en avait déjà parlé ce week-end. Toujours un petit peu à la pointe de l'actu. Et donc Rayou en a parlé à sa commu. Voilà, il en a reparlé hier. Et ce serait formidable que Klemovic en parle aussi, mais à mon avis, il en a déjà parlé. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, en parlant autour de nous, à 8702. Vous allez voir que si on en actualise, c'est sûrement plus. Voilà. C'est-à-dire que 8714. Et je suis sûr que d'ici... Merci pour l'imitation d'étoiles, c'est adorable. Je suis sûr que d'ici la fin de la semaine, on va passer les 10 000. Et je suis sûr qu'on va réussir à passer les 100 000. À 100 000 signatures, la pétition sera mise en avant sur le site de l'Assemblée nationale. Klemovic n'en a pas parlé, mais quand Clément va en parler, parce que je suis sûr qu'il va en parler, parce que c'est un sujet évidemment auquel il est très sensible, avec sa communauté, ça va être énorme. Voilà. Et moi je crois aux 100 000. 100 000, c'est mise en avant de la pétition sur le site de l'Assemblée, et 500 000, l'Assemblée peut s'en emparer pour faire un débat dans l'hémicycle. Voilà. Donc on va y arriver, j'y crois. On va en parler tous les jours. On va en parler tous les jours. Voilà. Jusqu'aux 100 000. OK ? On en reparlera à la fin de ce stream, par exemple. OK ? Et rendez-vous demain pour MVP à partir de 10h jusqu'à 13h, avec une petite revue de presse qui sera de 8h30 à 10h. OK ? Prêt pour le sommaire ? C'est possible d'avoir le lien de la pétition. Mon Martin que j'aime, le lien de la pétition est en haut dans le chat, il est épinglé. Penses-tu la partager sur les réseaux sociaux ? Je l'ai déjà fait sur Insta, je l'ai déjà fait sur TikTok, je l'ai déjà fait sur YouTube, je ne l'ai pas fait encore sur X parce que je poste quasiment plus rien sur le réseau du Chétan. Donc voilà, tu as toujours peur que tu as des dingos qui tombent dessus et qui masculinistes et autres, virilistes. Ce réseau est perdu. Donc non, je ne l'ai pas posté sur X. Merci la fée insolente. Merci pour le soutien. Je trouve pas une fois sur le lien. Tu trouves pas quoi? Quand tu cliques sur le lien, t'arrives sur ça. C'est la pétition, ça. Je viens de cliquer sur le lien. Tu cliques sur le lien. Voilà. À moins que tu fasses ça sur un téléphone et que ça bug. Copie-colle le lien éventuellement, tu iras avec un PC ou après. Ok. Mais voilà, et le texte de la pétition est très bien fait. Ok. Allez, c'est parti pour le sommaire. Parce que là, vous êtes quand même 3000 et je ne vous ai pas donné une seule actualité. C'est parti. 3, 4. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne sur Twitch, c'est la revue de presse, la grande revue de presse. Ça a été mon exercice journalistique préféré en 30 ans de journalisme, c'était lire les journaux et en parler en radio et en télé. Puis quand je suis arrivé sur Twitch, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire ça aussi, mais plutôt que d'en parler 3 ou 4 minutes des journaux, on pouvait en parler 3 heures. Donc je fais ça depuis 5 ans. Merci à ceux qui sont en direct avec nous sur Twitch ce mardi matin, je crois qu'on est mardi. Merci à ceux qui vont écouter cette revue de presse en replay sur YouTube. Merci à ceux qui vont nous écouter en replay, en podcast audio. À partir de 15-16 heures en général, la revue de presse du matin, on la poste sur toutes les plateformes de podcast audio, Deezer, Spotify, Apple Podcast notamment, à partir de 15-16 heures tous les jours. On va commencer par le sommaire. Je vous signale qu'on a un petit MVP demain à 10h sur ma chaîne, mercredi, MVP, Ma Vie Pro, l'émission qui parle de l'univers du travail, des voies professionnelles, l'émission qui explore les voies pro pour que chacun trouve la sienne. N'hésitez pas à me retrouver demain à 10h. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans l'actu ? Eh bien, beaucoup de choses. Je ne comptais pas vous parler tant que ça du rapport sur l'audiovisuel public, le rapport de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, mais il est sorti ce matin, un petit peu avant 7h du mat. Voilà, donc j'avais pas prévu. Je voulais rajouter un peu en catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport ? Il fait plus de 500 pages. On va pas lire les 500 pages ce matin, mais on va vous lire les premiers articles qui parlent de ce rapport, les grandes lignes, notamment les propositions. Voilà. Et je pense que plus tard dans la journée, cet après-midi ou soir, je vous ferai un stream dédié à ce rapport, le rapport de M. Charles Alloncle, hein, le rapporteur de cette commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, 4 mois et demi d'audition, 6 mois avec les pauses. Voilà. Erreur 503 actuellement, me disait-elle, parce que beaucoup de gens cherchent à télécharger ce rapport. Il y a déjà des articles. Voilà. J'ai vite fait contrôle F, Samuel Etienne, me dit Gregorio, et les propos sont aussi calomnieux qu'en commission sans surprise. Eh ben, ça m'arrange. Eh ben, ça m'arrange. Mais pour un autre truc dont je vous parlerai plus tard. Donc, ce matin, on va lire les articles, mais on va voir aussi les réactions, parce qu'il y a déjà plein de réactions. Voilà. Notamment, surprise, le Premier ministre lui-même, Sébastien Lecornu, a réagi dès ce matin. Alors ça, c'est un peu une surprise, qu'il sorte de sa réserve sur ce sujet-là. Voilà. Et il déplore une occasion manquée. J'ai l'impression qu'il y a quand même un tir de barrage de beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsables politiques et de médias sur la qualité, ou plutôt la non-qualité de ce rapport. Et ça commence par le Premier ministre. On se penchera sur ça. Premier sujet ce matin. De quoi je vous parle encore ensuite, ce sera le timing Mélenchon. Alors, vous allez me dire, mais t'en as déjà parlé hier. Puisque dimanche soir sur TF1, Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa quatrième, ouais c'est ça, c'est un cadre à la suite, quatrième candidature à la présidentielle, c'est tout sauf une surprise. Alors c'est une surprise par rapport à ses propos d'il y a quelques années quand il avait dit qu'il fallait laisser la place aux jeunes et que c'était sa dernière campagne. Oui, mais pas une surprise par rapport à l'actualité ces derniers mois, tout le monde savait qu'il allait y aller, il y va, et il y a toute une série d'articles, une deuxième série d'articles dans la presse de ce mardi matin sur cette candidature, ce qui est important parce que c'est quand même, quoi qu'on pense de Mélenchon, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit militant LFI ou totalement opposé à ce parti et à cette personnalité, c'est l'un des principaux candidats à la présidentielle. Hein, il est parmi ceux qui sont crédités, pour ne parler que de ça, des meilleurs sondages pour le premier tour. Voilà. Et puis il a aussi l'expérience, hein, c'est sa quatrième campagne. Donc je trouve intéressant d'y revenir avec plusieurs articles. D'abord, les ressorts de la candidature de Mélenchon, article du Monde. Mélenchon qui prend de vitesse le reste de la gauche, hein, le reste de la gauche qui est bien embêté avec tout ça. Voilà. Il y a une partie de la gauche qui réveille une candidature unique de la gauche au sens large. Bon, bah, c'est très mal parti, puisqu'on a déjà une candidature affirmée, affichée, déclarée, celle de Mélenchon. Et puis ce matin, là, il y a beaucoup de choses qui ont tombé ce matin. Après la lecture des journaux, j'ai découvert un autre dossier vachement bien fait aussi dans le Huffington Post, signé Marceau Taburet. Pourquoi une victoire de Jean-Luc Mélenchon contre le RN est plus compliquée qu'il ne l'imagine ? Et j'ai trouvé ça assez bien écrit, assez mesuré. Voilà, je pense que vous apprécierez cet article aussi. Donc, gros dossier Mélenchon ce matin. C'est en fait l'actuel. On a un gros dossier audiovisuel public et un gros dossier Mélenchon. Mais alors, mon problème ce matin, c'est qu'il y a plein d'autres actus. Par exemple, on a un dossier dans Libération qui est incroyable. Alors, la une est folle. Alors, je la décris pour ceux qui nous écoutent en podcast audio. On a une statue de Trump, le président américain, mais alors dorée, shiny. On a l'impression que c'est de l'or massif. Voilà, minimum du plaqué or. Vous savez que le président américain aime beaucoup ce qui brille. Hein. Il a redécoré son bureau de la Maison Blanche. Il y a de l'or partout. Alors je sais pas si vous connaissez cette statue, mais ce qui est plus intéressant que la statue, c'est le titre de Libé. Trump, le profiteur. Depuis sa réélection, il a gagné 1,4 milliard. de dollars. Voilà, une présidence qui fait sauter le verrou de la fortune. Hein. Disons, Libé nous explique qu'il a un peu profité de son deuxième mandat pour tourner la roue de la fortune. Et il s'est souvent arrêté à bon endroit, quoi. Le locataire de la Maison Blanche et sa famille se sont enrichis de plus d'1,4 milliard de dollars. C'est beaucoup quand même. Depuis son retour au pouvoir, selon les estimations du magazine Forbes, hein, au prix d'un mélange des genres intense entre son mandat et ses business. Donc gros dossier dans Libé qui donne des chiffres, des comment il a fait, pourquoi il fait ça, pourquoi c'est pas interdit de s'enrichir et de continuer à faire du business alors qu'on est président des États-Unis. Gros dossier. Je continue, tout sommaire toujours, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire un peu mystérieuse, un peu inquiétante, d'un virus sur un bateau. Voilà. 3 décès, au moins 3 autres cas d'un syndrome respiratoire. Syndrome respiratoire, on n'aime pas trop ça. C'est sur un bateau, vous voyez ici, le paquebot, le MV Hondus. Voilà. Entre l'Argentine et le Cap-Vert, c'est une croisière. Les experts cherchent à comprendre l'origine de la contamination. Un bateau, titre Le Figaro, 3 morts et un mystérieux virus. Les scénarios de la contamination du MV Hondus. Alors, mystérieux virus, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que c'est un antivirus, hein, je crois. A priori, les spécialistes disent non, bah, on voit ce que c'est. Ça n'est pas que c'est pas inquiétant, mais il n'est pas si mystérieux que ça, quoi. Disons qu'il avait déjà été. Les scientifiques semblent dire ouais, on voit ce que c'est, quoi. Bon, mais je voulais quand même vous en parler. Hein, je vois Bisounours qui dit cette histoire de virus me terrifie. Voilà, je voulais quand même vous en parler parce que sinon, vous m'auriez dit, mais non, Sam, l'antivirus, là, le bateau, t'en parles pas? Hein? Alors ça, la politique, oui, mais bon, voilà, je pense qu'il faut en parler. Je vous lis. Hein. Si le confinement pouvait tomber sur la sortie de GTA 6, putain, vous ne pensez qu'à ça, quoi. T'as arrêté. Ah oui, ça veut gamer, ça veut passer ses jours et ses nuits sur GTA 6. Et donc, c'en est à souhaiter. S'en est à souhaiter un confinement. Vous en êtes là? Putain, vous êtes vraiment des puants. C'est incroyable. Ah là 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 là, les gamers. Ah, les gamers. Plutôt qu'aller bosser et cotiser là, pour payer les retraites des vieux comme moi. Là. Ah, là, incroyable. Donc, on va parler de tout ça. Alors, donc ça... Putain, mais comment j'écris Bardella? Bardella, ça prend 2 L. Attends, j'ai fait une faute, non? S'il devient président, il va falloir que j'apprenne à écrire son nom. Ah non, c'est ça, Bardella. Tiens, c'est bizarre de l'avoir écrit comme ça. Ça semblait bizarre. Je suis pas habitué encore. Ah, s'il devient président, mon Samuel, il va falloir commencer à écrire son nom. Hein. Bardella, c'est 2 L. Ah ouais, tiens. Ok, Bardella. Alors, Bardella, alors ça, c'est un truc super bizarre. C'est Mediapart qui sort ça. En général, Mediapart, ça bosse. Hein. Ça enquête, ça bosse. Ils ont une grosse rédaction. C'est rigoureux. C'est du bon travail. Et alors, Mediapart nous raconte que après la dernière dissolution à l'Assemblée, hein, Bardella aurait proposé à Cyril Hanouna, la tête de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la télévision et de la radio, en cas de victoire. Et là, vous allez me dire, quoi? Cyril Hanouna à la tête de l'ARCOM? Alors, vous allez me dire, mais what the fuck? Comme disent les jeunes, enfin les jeunes vieux, parce que c'est un peu... Et là, je lisais ça hier soir, je dis, oh Samuel, reprends la bibine, parce que depuis que tu as arrêté l'alcool, il y a une trentaine d'années, ça ne te réussit pas, quoi. Eh ben non. Non, il l'aurait fait. En tout cas, c'est ce que dit Mediapart. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Bardella a déjà réagi, et il a déjà dit non, c'est pas vrai. Donc là, je vous l'ai mis aussi, c'est dans le Huffington Post. Bardella dément avoir proposé à la tête de l'ARCOM à Hanouna après la révélation de Mediapart. Donc, je vous donnerai l'info, la contre-info, le démenti. Et puis, mais c'est intéressant quand même, parce qu'à partir du moment où on n'est pas sûr, en fait, pourquoi en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mediapart profite de cette enquête pour parler des relations entre Bardella et Hanouna. Et là, j'ai appris plein de choses. Voilà. Hanouna a-t-il démenti? Hanouna a dit « Ouais, je me rappelle plus, mais ouais, si jamais il l'a fait, c'est une blague. » C'était ça, voilà, je vous verrai. Mais par contre, on apprend plein de choses sur les relations entre le monsieur de gauche, Bardella, et le monsieur de droite, Hanouna. Et ça c'est intéressant. Voilà. Bon, l'histoire de l'ARCOM, je trouve que ça me paraît tellement fou, mais bon. Donc voilà. Ensuite, PSG J-1, bon, on en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve ça assez fascinant que le PSG puisse éventuellement se qualifier pour une nouvelle finale de Ligue des Champions et rêver d'une deuxième Ligue des Champions. Hein. Ce serait incroyable. Donc là, on est à J-1 puisque le match retour demi-finale Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern, c'est demain. Voilà, avec une victoire à l'aller au Parc des Princes, si je dis pas de bêtises, 5-4 pour le PSG. Voilà. Donc on s'en prend à rêver. Moi, je suis pas un supporter du PSG, mais je trouve ça formidable pour le PSG et ses supporters. Voilà, PSG injouable loin du parc, nous dit le Parisien. Le PSG qui sait se déplacer. Sur quelle chaîne? Bah, je sais pas. Moi, je l'ai regardé au Maroc. C'était sur beIN Sport, je crois. Mais en France, c'est sur Canal, non? C'est ça? Canal Plus? Voilà, c'est sur Canal normalement. Voilà. Non, mais en vrai, c'est intéressant. Donc il y a ça. Et puis alors, Monsieur Sexas, Monsieur Paul Sexas, hein, ce jeune homme de 19 ans qui affole, je crois qu'il a 19 ans, qui affole les passionnés de cyclisme en France. Enfin, c'est le nouveau grand. Il est hyper précoce, il est incroyable. Et c'est un peu, oui, c'est un peu le Lisan Al-Gaib du cyclisme, exactement. Sexas en un seul mot, hein, pas sexe, as, Sexas. Et voilà, tout le monde l'espérait sur le Tour de France. À 19 ans, c'est un des plus jeunes coureurs du Tour de France ever. Il devient le plus jeune coureur depuis 1937, mesdames et messieurs, à prendre le départ du Tour de France à 19 ans, 9 mois et 10 jours. Voilà. Et donc tout le monde l'attendait. C'est la première fois qu'il participera à une course aussi longue de 3 semaines. Je crois que la course la plus longue à laquelle il a participé, c'est 8 jours ou 10 jours. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Personne ne pense qu'il peut gagner. Le Tour de France, c'est sa première participation au vu de la concurrence, notamment avec, comment il s'appelle, le mec très fort là, Pogacar, hein, qui vise, je crois, un cinquième Tour de France. Mais voilà, tout le monde est très content qu'il soit là. Un tour avec quelle ambition? Je voulais absolument vous lire cet article dans le Parisien. Et je crois qu'il fait la une de l'équipe d'ailleurs. Je crois même qu'il fait la une de l'équipe, notre ami Paul Sexas. Tiens, Théma. Vivement juillet! Hein? Comme dit Sugar, maillot blanc plus top 10, ça serait déjà très propre. Après, il est incroyable. Il est incroyable. Paul Sexas a mis fin au suspense, le prodige du cyclisme français pendant le départ de la Grande Boucle 2026. Putain, je vous fais l'animation là. Allez, allez. Ouais, c'est incroyable. Ouais, breaking news. Ouais, incroyable. Alors, vous ne pouvez pas voir ceux qui nous écoutent en podcast audio, mais je suis en train de faire des effets visuels là, pour mettre en avant l'actu. Là, vous avez juste le son, vous n'avez pas le dommage parce que là, je fais des trucs de fou là. Ouais, Paul Sexas, 19 ans, Tour de France. Waouh, vivement juillet. Ouais, vous ratez des trucs là. Il faut venir nous voir en direct parce que c'est vraiment une débauche de moyens sur cette revue de presse de psychopathe, quoi. Voilà. Est-ce qu'il est pas beau, mon. Il est pas beau, mon sommaire? Il est beau ou il est pas beau, mon sommaire? Ouais, faites-moi bien penser à la fin de la page de Mélenchon d'aller voir le papier du Huffington Post que j'ai mis à la fin. D'accord? Ok, je compte sur vous. Il a affûté ce sommaire. Oh oui! Oh, il est beau, oui! Il est gros! Enfin, peu importe. On aime les gros sommaires ici. Merci, Kohanki pour le Prime, merci la Mumzette, merci Boubou4411, merci Blue Mountains 909, merci encore la fée insolente. Sommaire in shape, joli. Le sondage sur Mélenchon à 12%, tu l'as vu? Non, non. Ah, bah c'est les sondages. Bon, de toute façon, oui, c'est ça. Bah, la grande question, c'est est-ce qu'en gros, il passe au deuxième tour, quoi? Est-ce qu'il se fait passer devant par. À partir du moment où on part du principe que le candidat RN, quel qu'il soit, est au deuxième tour, ce qui n'est pas sûr, c'est ce que disent les sondages, mais dans un an, en politique, tout peut se passer. Il y a la campagne. Hein. Je sais pas, le candidat du RN, Marine Le Pen ou Bardella, peut totalement rater sa campagne. Donc, mais on part du principe que le candidat du RN est au deuxième tour. La question, c'est qui l'affronte? Est-ce que c'est du Mélenchon? Est-ce que c'est du Édouard Philippe? Est-ce que c'est du Villepin? Est-ce que c'est du. Voilà. Ne me faites pas dire que je vous annonce l'affiche de dans un an. Hein. C'est ceux qui disent: Ah ouais, mais tu nous annonçais un deuxième tour. J'ai vu un message tout à l'heure. Je vais te clouer au pilori. Ouais, mais hier, tu nous as dit que le deuxième tour, ce serait Mélenchon RN. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que certains sondages le disent. Mais les chouchous, eh oh! Et je suis pas Madame Irma, hein, j'ai pas de boule de cristal. Hein? Donc moi je vous dis, voilà ce que disent les sondages, voilà ce que disent un peu les forces en présence, voilà où on en est dans les dynamiques des uns et des autres. Mais d'ici un an, il peut s'en passer des choses. Je peux me présenter par exemple. Donc voilà. Mais on va se régaler pendant un an. Et on va se régaler. Merci Zouf pour le soutien. On y va? Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on met sur YouTube? Ah bah sur YouTube, je pense qu'on va mettre notamment le premier sujet là, sur l'audiovisuel public. Ah, ok. Très bien. Peut-être enlever le MVP là maintenant. Bon, je le laisse. Je le laisse. Allez. Donc là, on va le mettre, cette première info, on va la mettre également sur YouTube. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. C'est la grande revue de presse du matin. On est le mardi. Et avec les amis de Twitch qui vous saluent, qui vous font des bisous. N'hésitez pas à faire des bisous back. Eh bien, on s'est dit que on allait aussi vous parler à vous, eh bien, de ce rapport de la commission de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, dont les médias ont tant parlé, parce qu'il vient de sortir. Il vient d'être publié. Oui, là, ce mardi matin, là, un petit peu avant 7h. Je m'attendais à quelque chose plus tard dans la journée. Moi, j'étais un peu surpris. Voilà, il est paru. Alors, on va pas lire les 500 et quelques pages, hein, du rapport. Non, 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 on va pas avoir le temps. Je ferai un stream dédié sur le sujet cet après-midi ou ce soir. Mais on va se pencher sur les premiers articles sur le rapport et sur les premières réactions. OK? Audiovisuel public, le rapport est sorti, c'est parti. Alors si on va voir les premiers articles, on va faire un petit crible à l'oncle. On a d'abord un papier du Monde qui est sorti tout à l'heure. Rapport à l'oncle sur l'audiovisuel public, les recommandations vont de la fusion de France 2 et de France 5 à la réduction du budget des sports. Donc pas de surprise, c'est des choses qui avaient fuité. Qui avait fuité. Voilà. On sent que les médias ce matin se sont penchés sur les propositions du rapport. Je crois qu'il y a 80 propositions. Pour ceux qui le cherchent, il est sur le site de l'Assemblée nationale. Il est sur précisément la page dédiée à la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public. Vous avez juste à le télécharger. Voilà. Tiens. Comme ça, vous aurez le sommaire en même temps. Je pense que pour les médias, pour écrire aussi vite les articles, ils ne sont pas tapés les 500 et quelques pages, ils sont allés voir les 80 propositions. Hein? Au bout de 6 mois sous haute tension, il y a eu 6 mois de commission et 4 mois et demi de travail, plus les pauses, le rapport de la commission d'enquête sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public avait été adopté de justesse, vous vous souvenez, il y a une semaine par les députés, ce qui est intéressant en soi, parce que d'habitude, je suis allé me pencher sur le sujet, d'habitude, les rapports des commissions d'enquête parlementaires sont adopté à une très très grande majorité, souvent à la quasi-unanimité des membres. C'est très rare que ce soit à ce point serré. Celle-ci a failli ne pas être publiée. Le Premier ministre Sébastien Lecornu relève une occasion manquée dans les critiques ce matin de ce rapport. Il y a notamment, et ça c'est une surprise, je ne pensais pas qu'il prendrait parti là-dessus, il y a le Premier ministre qui dit que c'est pas fou. Ça c'est Monsieur Alloncle, le rapporteur, c'est lui qui a écrit ce rapport. Lisons l'article du Monde, donc. Allons qu'il n'a pas une plainte aux fesses pour prise illégale d'intérêt. Oh, c'est pas joli, Baptiste, comme expression. Oui, il y a deux plaintes actuellement en cours contre le rapporteur. Une pour prise illégale d'intérêt, on en a parlé hier, et une autre de l'animateur Nagui pour harcèlement en ligne. Tout à fait. Ça fait deux plaintes pour l'instant. Après plusieurs mois d'audition émaillée par de nombreux incidents, le rapport sur l'audiovisuel public du député d'extrême droite Charles Alloncle, écrit le journal Le Monde, a été rendu public sur le site de l'Assemblée mardi 5 mai au matin. On est à fond sur l'actu. Le texte de 400 pages, alors 400 pages, vous me disiez plutôt 500 et des brouettes. Bon, on vérifiera cette info. Le texte de 400 pages dont la publication avait été votée la semaine dernière par l'extrême droite. La droite et une partie du camp présidentiel comptent près de 70 recommandations. Bon, on m'a dit 80, vous voyez? Bon, on est au début, on va vérifier toutes ces infos au fil de la journée. Il semblerait, en synthèse, que notre audiovisuel public soit inadapté aux enjeux de notre époque, écrit M. Alloncle, en préconisant une refonte totale ou partielle du fonctionnement des grandes entités du secteur, à commencer par France Télévisions et Radio France. Donc, ça, on va dire que c'est la philosophie générale de ce rapport. De son côté, le président de la commission, le député Jérémy Patrilétus, qui était souvent pas très d'accord avec ce que disait le rapporteur d'ailleurs, ce qui a donné des échanges un peu surréalistes pendant les auditions. Qu'est-ce qu'on avait par exemple
Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là?
Par exemple, lui doit tenir une conférence de presse ce matin à 9h30, il est 10h30, elle est en cours, mais on va pas arrêter cette revue de presse. À chaque fois que quelqu'un fait une conférence de presse, on verra plus tard ce qu'il dit, sachant qu'il a déjà donné plusieurs interviews. J'en ai une d'ailleurs ce matin de Monsieur le Président. Charles Lalonde propose notamment de... Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il propose? De réduire d'un tiers le budget des sports de France Télévisions, qui permettrait, selon lui, de réaliser près de 50 millions d'euros d'économies par an. Bon, il se trouve que c'est notamment avec le sport que France Télévisions fait ses meilleures audiences. Bon, on réduit d'un tiers le budget des sports de France Télévisions. Voilà. France Télévisions, qui dans son cahier des charges se doit d'être une télé de qualité, mais aussi une télé de populaire. Bon, on réduit les sports. Les sports, c'est parmi les meilleures audiences de France Télévisions. Ce serait une sacrée balle dans le pied pour France Télévisions. De supprimer France 4, donc c'est la chaîne plutôt pour la jeunesse, de supprimer l'offre numérique France TV Slash, qui est pourtant l'outil de France Télévisions qui sert à explorer les nouvelles écritures, les nouvelles plateformes, parce que vous savez que la télévision est en train de mourir. Hein. C'est ce qu'a dit le numéro 2 de France Télévisions de Stéphane Cidbon-Gomez il y a quelques mois. Je cite « La télé est en train de crever », parce que les téléspectateurs vieillissent, que les jeunes ne regardent plus du tout la télévision. Et donc, il s'agit pour les médias traditionnels, radio, télé, TF1, M6, RTL, Europe 1, enfin, tout le monde, de se réinventer et d'aller chercher de nouveaux publics. Donc, l'outil de France Télévisions, pour ça, c'est France TV Slash. Là, on propose de le supprimer. Et la station Radio Move aussi, qui est la radio de Radio France, plutôt axée vers les jeunes. Le monde qui saute. Le député d'extrême droite préconise également de fusionner France 2 et France 5. Alors France 5, c'est quand même... s'il y a bien une chaîne de qualité, c'est France 5, avec des succès d'audience hallucinants, France 5. Hein, émissions de qualité, notamment sur l'information. Et il veut fusionner France 2 et France 5. Bon, comprenez, supprimer France 5, parce que c'est France 2, c'est la grosse... France 5, c'est la petite, donc si vous fusionnez les deux, vous savez très bien ce qui va se passer. Et donc forcément, quand tu fusionnes deux grosses chaînes comme ça, parce que France 5, ils ont une sacrée grille des programmes, ça veut dire qu'il y a des programmes de France 2 et des programmes de France 5 qui vont disparaître. Donc c'est moins de richesse, moins de propositions. Je peux pas mettre commenter, hein, au fur et à mesure, de donner quelques éclairages. Je travaille dans cet univers depuis 30 ans. J'ai travaillé beaucoup pour les médias privés et les médias publics. J'avais 17 ans d'ancienneté à France Télévisions. J'ai aussi travaillé beaucoup à Radio France, parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus le cas, je ne suis plus salarié d'aucun média, ni privé ni public, donc voilà, je connais un petit peu le sujet. L'opération devrait être conduite sur une période de transition de 3 ans avec un objectif d'économie nette récurrente d'environ 200 millions d'euros par an, explique-t-il dans ce rapport très critiqué à gauche, dit Le Monde, et par une partie du camp présidentiel, pour arriver à son objectif de réaliser 1 milliard d'euros d'économie annuelle sur les 4 milliards d'euros de budget actuellement. Monsieur Allon propose également de fusionner France Info et France 24. Voilà. Dénonçant régulièrement une supposée partialité du service public, Monsieur Alloncle écrit Le Monde, envisage aussi d'instaurer un devoir de réserve renforcé applicable aux présentateurs, animateurs, producteurs et décideurs éditoriaux de premier plan du jeu de public, comprenant des obligations déontologiques spécifiques sur les réseaux sociaux. Comprenez, sur leurs réseaux sociaux, à partir du moment où vous êtes salarié de France Télévisions, notamment présentateur, animateur, producteur ou décideur éditoriaux, bien vous ne pourrez plus dire ce que vous voulez. Vous aurez une espèce de droit de réserve. Une de ses propositions les plus controversées est aussi de modifier le mode de désignation des dirigeants de l'audiovisuel public pour qu'ils soient nommés non plus par l'ARCOM, mais directement par le président de la République, après avis des commissions des affaires culturelles du Parlement. Ça veut dire que, au hasard par exemple, puisque... Monsieur Alloncle ne cache pas ses sympathies pour le RN et par exemple pour Monsieur Bardella, dont il est assez proche. Si Monsieur Bardella était élu président de la République en 2027, c'est donc lui qui nommerait le président de France Télévisions et le président de Radio France. Dans un communiqué, alors on est déjà sur les réactions. Je pensais qu'on prendrait le temps pour les réactions. On ira voir les réactions tout à l'heure. Moi, j'ai envie de rester sur le rapport. Il y a déjà plein de réactions. Madame Ernotte, la présidente de France Télévisions, a réagi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a réagi. Bon, c'est plutôt critique. Hein. Mais là, on ira le voir dans un deuxième temps, je pense. Qu'est-ce que dit encore cet article du Monde ? Au bout de 6 mois sous haute tension, le rapport de la commission d'enquête avait été adopté de justesse il y a une semaine par 12 voix sur 10, ce qui en soi est assez surprenant, parce qu'en général, ce genre de rapport est adopté à la quasi-unanimité des membres des commissions. Le président de cette commission, Jérémy Patrié-Lettus, qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours, s'est prononcé pour, non pas parce qu'il valide le contenu de ce rapport, a-t-il dit, mais pour que le document soit rendu public et que les Français puissent juger des méthodes de l'extrême droite. Ambiance. Je vous lis pas, hein, parce que je vois plein de messages, je vous lirai tout à l'heure. Pardon, j'essaie de vous donner un maximum d'infos, mais je ne vous oublie pas. Quelques jours avant la publication de ce rapport, l'affaire s'est déplacée sur le terrain judiciaire. Selon les informations du Monde, le député ciotiste est visé par une plainte déposée contre X par l'association AC Anticorruption devant le parquet national financier, faisant suite à nos révélations sur l'envoi de questions de Lagardère News, Lagardère News qui est le bloc média du groupe Bolloré, donc Journal du Dimanche, Europe 1 et CNews, et l'accusation, les révélations du Monde et l'accusation de l'association AC Anticorruption qui a donc porté plainte, c'est que ce groupe Lagardère News aurait transmis des questions à poser aux personnes auditionnées, notamment à Delphine Ernotte. Et donc il y a une plainte, voilà, pour trafic d'influence actif. Elle s'appuie sur les révélations du Monde, écrit le journal, selon laquelle le groupe Lagardère, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré, avait tenté de peser sur la commission d'enquête. Pendant cette commission, la direction des affaires institutionnelles et réglementaires de Lagardère News, qui détient notamment Europe 1, le journal du dimanche, a envoyé à plusieurs députés, dont le nombre est inconnu, des listes de questions. Ah, je dis une bêtise d'ailleurs, parce que Lagardère News, c'est pas CNews. C'est Europe 1, le JDD. CNews, c'est Bolloré, directement. Là, je corrige ce que je viens de dire. Lagardère News, c'est Europe 1 et le JDD, donc contrôlé par Bolloré. Mais CNews n'est pas dans Lagardère News. Lagardère, c'est Arnaud Lagardère. Anciennement Arnaud Lagardère. Voilà, mais c'est le même, c'est tout Bolloré, c'est pas tout à fait les mêmes antennes. Donc, qui détient notamment Europe 1 Journal du Dimanche a envoyé à plusieurs députés, dont le nombre est inconnu, des listes de questions hostiles à l'audiovisuel public avant leurs échanges avec les auditionnés. Voilà, monsieur Alloncle avait fustigé une tentative de déstabilisation grotesque à quelques heures de la publication du rapport. Monsieur Alloncle a répondu à ces accusations. Que oui, il avait reçu ces questions, mais que non, il ne les avait pas utilisées. Le président a dit, ah oui, moi effectivement, j'ai reçu une première série de questions et j'ai interrogé les autres membres de la commission pour savoir si les autres membres de la commission avaient reçu ces questions. Et à sa connaissance, c'est ce que dit le président Jérémy Patrier-Lettus, à sa connaissance, le seul autre membre de la commission, à part le président, à avoir été réceptionnaire, je ne sais pas si on peut dire ça, des questions du groupe, envoyées par le groupe Lagardère News, c'est monsieur Alloncle. Bon, il se trouve qu'effectivement, beaucoup des questions écrites par Lagardère News ressemblent énormément à des questions récipiendaires, destinataires, vendues, qui ont été posées par monsieur Alloncle. Mais bon, c'est pas parce que monsieur Alloncle a posé des questions qui ressemblent énormément à celle que voulait poser le groupe Lagardère News que il s'est inspiré de ces questions, hein. Peut-être qu'ils ont juste pré-shot.
Mais non, mais hasard de dingue.
Peut-être qu'ils ont juste pré-shot, voilà. Et que peut-être que monsieur Alloncle il a lu les questions en disant ah mais c'est exactement les questions que je voulais poser. Alors donc voilà. Dans ce cas-là, ça veut dire que le groupe Lagardère News, Bolloré, Europe 1, JDD pense comme monsieur Alloncle. C'est intéressant aussi. Voilà. Alors, il y a un autre article que je vous montre dans France Info. Donc, c'est les articles qui tombent ce matin. On est en train de les découvrir. Sur ce rapport, est-ce que l'article de France Info dit des choses que le Monde n'a pas écrit, peut-être ? 80 recommandations. Vous voyez, le Monde parle de 70. 1 milliard d'euros d'économie, ok. Monsieur Alloncle est ici. 400 pages. 400 ou 500 ? Vous m'avez dit 500 pages, vous. Alors, pop, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors, supprimer France 4, fusionner France 2 et France 5, ça on sait, ok. Mais ça avait leak ces derniers jours. Suppression du Move, ça on savait. Suppression de France TV slash, ça on savait. Ah, vous me dites 551 pages, ok. J'ai l'impression que les médias n'ont pas eu le rapport. Vous, oui. Je pense que votre info est plus juste que celle que je lis là. Économie. Alors, économie sur le sport, on l'a vu, mais économie sur les jeux aussi. Hein. Charles Alloncle considère qu'il y a trop d'émissions de jeux sur les chaînes de l'audiovisuel public. Il plaide pour rééquilibrer les genres et revenir à des formats davantage liés, selon lui, à une mission de service public. En citant des jeux de culture générale comme Question pour un champion. Mais laisse donc Question pour un champion, hein, et des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres qui a été supprimé, hein, qui n'existe plus. Voilà. Il recommande de réduire de 3/4 le budget consacré à ces jeux. Voilà. Alors, sachant que là, on a un problème, c'est que dans le cahier des charges, les obligations que c'est pas vous qui les avez décidés, c'est pas moi, c'est pas monsieur à l'oncle, c'est les obligations du cahier des charges de l'État à France Télévisions, il y a faire une télé de qualité, une télé populaire aussi. C'est un peu compliqué à faire, mais France Télévisions essaie de le faire. C'est-à-dire qu'il faut faire non seulement des programmes intelligents, des programmes de qualité, mais aussi des programmes qui font de l'audience. Parce qu'il ne s'agit pas de financer des trucs que personne ne regarde. Or, dans les émissions qui font le plus d'audience, voilà, il y a notamment ces jeux. Voilà. Comme le sport, d'ailleurs, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, M. Hallon veut supprimer une grosse partie du budget des sports et des jeux, par exemple, qui sont des jeux de qualité globalement sur le service public. J'en sais quelque chose. Mais alors, quid de l'audience ? Quid d'une télévision populaire ? Il faut peut-être changer le cahier des charges, peut-être. On peut hein, faire une télé moins populaire. On peut faire une télé qui est moins regardée, qui fait moins d'audience, après tout. Hein. On peut dire ça en disant, bah, l'audience, c'est pour les chaînes privées, on en a besoin pour la pub, et puis le service public, c'est, on va pas... Excusez-moi, je l'ai un mail d'un monsieur avec qui je travaille en ce moment sur un sujet qui vous intéresse. J'ai le plaisir de revenir vers vous pour vous informer que... Ok. Je pourrais donc... Ok. Concernant le... Ok. Ok, ok. Bon. Je vous en parlerai plus tard. Mais ça nous concerne. Un truc qui est en cours. Mais... Qu'est-ce que je disais ? Oui, on peut demander à France Télévisions de ne pas faire d'audience. Mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, les gens qui ont obtenu que France Télévisions fasse moins d'audience en supprimant une partie importante des sports et du divertissement et des jeux, par exemple, eh bien, ces gens vont dire quoi ? Ben, dis donc, hé, on vous en donne de l'argent pour faire une division que personne ne regarde ? Bim ! Et c'est la deuxième couche, c'est le deuxième effet qui se coule. Voilà. D'abord, diminuer les moyens, les budgets, voilà, notamment dans les trucs qui font de l'audience, et quand il n'y a plus d'audience, dire, dites donc, vous nous coûtez bien cher pour les quelques centaines de milliers de téléspectateurs qui vous regardent. On va réduire vos budgets. Allez, bien joué. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, M. Alloncle s'est défendu de vouloir la privatisation de l'audiovisuel public. Lui, il dit, moi, je suis pour un audiovisuel public fort, de qualité, pas du tout pour une privatisation. Alors, le problème, c'est que l'UDR, son parti, par la voix de son président Éric Ciotti, demande la privatisation. Donc, M. Alloncle ne serait pas d'accord avec le président du parti auquel il appartient. Bon. Et le parti auquel l'UDR est associé, le RN, demande également la privatisation de France Télévisions. Alors donc, M. Hallon ne serait pas d'accord avec le RN. Ce qui est un peu étonnant, puisque M. Bardella, prenant connaissance des principales mesures du rapport à Hallon ces derniers jours, a réaffirmé sa volonté de privatiser France Télévisions. Au moment, c'est pas très très clair ce que veut faire M. Alloncle. Certains, comme le président Jérémy Patrilétus, accusent M. Alloncle, sous couvert effectivement de ne pas souhaiter cette privatisation, de ne pas souhaiter cette disparition de France Télévisions, en fait de donner des armes, des outils, des arguments à l'extrême droite qui veut supprimer France Télévisions. Mais bon, je suis pas Jérémy Patrilétus, c'est ce que lui dit. Donc, économie sur les jeux, économie sur le sport. Revoir le mode de nomination des dirigeants, on en a parlé. Et instaurer un devoir de neutralité pour les salariés également. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres articles de fond ? J'ai tapé Alloncle dans Google Actu, outils, tripertinence, est-ce qu'on a de nouveaux articles sûrement ? L'opinion a fait un sujet, ouais. RFI, l'équipe, toi, tout le monde en parle. Hein. BFM, CNews, qui cite le cornu, qui dit que ce truc est une occasion manquée, on va en parler, les réactions dans un instant. BFM, beaucoup, le Figaro, avec les critiques de Madame Ernotte, Libération. Ok. Bon, pour l'instant, on est sur des petits articles, il y en a sûrement beaucoup dans la presse de demain. Moi, je vous propose qu'on se penche sur les réactions maintenant. Les réactions des personnalités à cette publication de ce rapport ce mardi matin. Et alors, étonnamment, je ne pensais pas que le Premier ministre réagirait à ce sujet. On a une réaction de Sébastien Lecornu. Voilà. Alors déjà, le serveur est down. Hein. Certains parmi vous qui voulaient télécharger le rapport, vous m'avez dit le serveur est down. Oui, ça c'est assez incroyable quand même. Je ne suis pas sûr que dans l'histoire de l'Assemblée, le site est souvent crashé. Tout le monde veut télécharger ce truc. Ok. Et alors on a dans les réactions... Alors, il est où, monsieur le cornu? Il y a beaucoup de réactions. On va commencer par le bas, parce qu'en fait, le Parisien a carrément fait un fil d'actu, un fil de réaction. Regardez. Bienvenue sur ce direct consacré à la publication du rapport de Charles Lalong sur l'audiovisuel public. 9h15 ce matin, ils ont mis plein de réactions. Le cornu. Sébastien Lecornu estime que le rapport d'Alonc est une occasion manquée et passe à côté de l'essentiel. Le gouvernement prend acte du rapport, écrit Sébastien Lecornu. Le Premier ministre déplore que le document rédigé par le député UDR Charles Lalong passe malheureusement à côté de l'essentiel, évoquant une occasion manquée. Des réformes sont nécessaires, dit le chef de gouvernement. Certaines sont déjà engagées, d'autres doivent venir. Seul moyen de protéger le service public, les journalistes et équipes techniques qui le font vivre avec professionnalisme. Mais cela doit répondre à une vision, ni démantèlement, ni immobilisme, plaide le locataire de Matignon. Ça, c'est la réaction du Premier ministre. Réaction de Madame Ernotte, la présidente de France Télévisions. Insinuation et contre-vérité. Delphine Ernotte dénonce le rapport à charge. Vous allez voir que M. Lalong, dans un instant, a déjà réagi à ce que dit M. Lecornu. La bagarre. La bagarre. Donc, Madame Delphine Ernotte a dénoncé un texte à charge construit sur des insinuations, des approximations, des contre-vérités visant un affaiblissement historique de France Télévisions. Ce que propose le rapport, c'est le plus grand plan social de l'histoire culturelle française, dénonce la présidente de France Télévisions. Alors, M. Lalong, depuis plusieurs jours, défend son rapport. Il continue à le faire ce matin. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de M. Lalong au propos de M. Lecornu, parce que je trouve que c'est un peu une surprise que le chef de gouvernement réagisse, en fait. Ah, Charles Lalong soupçonne Sébastien Lecornu de ne pas avoir lu le rapport. Sur BFM Télé, le député UDR Charles Lalong répond au Premier ministre et estime que son rapport sur le lieu public passe à côté de l'essentiel. « Je le soupçonne de ne pas avoir lu le rapport », lance le parlementaire, rappelant que l'épais document fait plus de 400 pages. Voilà. Ambiance. Le MoDem dit son intention de publier un contre-rapport dans les prochaines semaines. Ce truc est sans fin. Le serveur est down. Ok. Le RN est en colère contre la réaction de Sébastien Lecornu. Jean-Philippe Tanguy, député RN, a vivement réagi contre le Premier ministre. Hein. Deux points, ouvrez les guillemets. C'est quoi la vision de M. Lecornu sur l'audiovisuel public à part couvrir les dépenses somptuaires de Mme Ernotte et sa chambre dans les palaces à Cannes, à part autoriser des voitures de fonction des animateurs producteurs qui s'en mettent plein les poches, a-t-il dénoncé. Voilà pour les réactions. Les premières réactions. Et moi, je vais vous lire vos réactions aussi. Moi, je vais vous lire vos réactions. Et puis, là, on fait un travail. Là, on est sur la surface, on est sur l'écume de cette actualité. Ce que je vous propose, c'est que ce soir, je pense que je ferai ça ce soir, je ferai un stream dédié où on va essayer de passer en revue ce rapport. On va se le lire. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Le problème, c'est que demain, j'ai MVP, donc il faut que je fasse attention. Mais voilà, pour faire les choses un peu sérieusement. Et en plus, on aura eu plein d'analyses, plein d'infos qui seront sorties d'ici là. Je vous lis. Donc là, il vient de sortir, donc bon, je pense qu'il faut que les gens le lisent, ce rapport. Hein. Quelqu'un me dit, ah, est-ce qu'on a des réactions de parti de gauche? Bah, peut-être qu'il faut que les gens lisent ce rapport, peut-être. Hein. Nous aussi, d'ailleurs. Bon, moi, ce qui m'intéresse, notamment, vous savez que moi, j'ai reproché à monsieur Lalong d'avoir émis des contre-vérités, des fausses informations, des approximations graves lors de mon audition et lors de deux tweets qu'il a postés après mon audition. Voilà, donc je lui ai demandé, après lui avoir communiqué des documents, des excuses publiques à ce sujet, qu'a priori je n'ai pas reçu, peut-être qu'il s'excuse dans le rapport. Donc vous m'avez indiqué, je n'ai pas lu ce rapport, que mon nom figurera à plusieurs reprises dans le rapport. J'irai lire ce rapport, et en fonction de ce qu'il y a dans ce rapport, je verrai. Je vous lis. Ces tweets ont été supprimés. Non. Enfin, pas hier soir, en tout cas. Ce serait intéressant qu'ils aient été supprimés depuis hier soir. Ce serait très intéressant. Ah, c'était une question, j'ai foiré mon point d'interrogation. Bon, alors je te confirme que ces tweets n'ont pas été supprimés. De toute façon, ça ne changerait pas grand-chose. La diffamation et le harcèlement en ligne sont déjà faits. Alors, je vous lis. Je remercie aucun sub depuis un petit moment. Merci Elena28, merci Beast Ouket, magnifique pseudo. Merci Tekrop, merci Zouf pour les soutiens. Impossible de charger le rapport pour l'instant, me confirme Defecator officiel dans le chat. Ça coûte combien chaque rapport pour vérifier un truc? Ah bah ça coûte des sous, hein. Ah, le temps qu'ont passé tous les membres de cette commission et toutes les équipes administratives qui ont entouré ce travail, plus le temps consacré par les 200 et quelques personnes auditionnées, oui, c'est forcément un petit coût, oui. Bon, c'est pas l'essentiel, mais oui, c'est un coût, c'est de l'argent public, c'est sûr. Je vous lis. Il y a beaucoup de... Par contre, hop, je reviens en bas. Le rapport est plus prisé que le tome 100 de One Piece quand il était sorti, me dit GG. Je pense que tu as raison. On me dit que pour télécharger le rapport, on peut également passer, me dit Defecator, par le site de LCP, la chaîne parlementaire, qui en propose également un lien. Hein, ok, c'est intéressant. Ok. Bon, ça vous va si on se retrouve ce soir pour un stream dédié à ça? Hein? Ça va être une journée chargée parce qu'il faut que j'écrive MVP aussi, mais ça va le faire. On fait ça? Ça vous va? Hein? Là, je vous ai donné l'essentiel, c'était bien, mais vous connaissez ma façon de travailler. Je préfère qu'on prenne le temps. Hein, je préfère souvent parler d'une information un jour ou deux jours après les autres pour avoir pris le temps de vérifier les infos, de ne pas raconter n'importe quoi. On n'est pas une chaîne info ici, on n'est pas... à vous donner une info à 8h et une autre à 8h30 qui contredit la première. Donc on prend le temps. C'est pour ça qu'on aime bien la presse écrite. On a quelques infos ici. Pas tant que ça. Quelques réactions, pas tant que ça. Au fil de la journée, on va avoir d'autres choses. D'ici ce soir, on devrait avoir plus d'éléments. Et surtout, je devrais avoir téléchargé le rapport. On se fera un petit stream là-dessus. On se retrouve ce soir vers 20h. Ok? Voilà. On enchaîne avec les autres sujets. Tchouk. Déjà, j'aurais dû mettre les premières réactions ici. Et on va parler de Mélenchon. Mais assez longuement, on va y revenir. Et vous pourriez me dire, mais Samuel, t'en as déjà parlé hier, puisqu'on a appris, dimanche soir sur TF1 que Jean-Luc Mélenchon se présentait pour une quatrième candidature à la présidentielle. Donc c'est un 4 à la suite dans le langage de question pour un champion. Et j'en ai déjà parlé hier matin, sauf que c'est quand même l'un des principaux candidats de cette candidature 2027, hein. Donc je pense qu'il faut prendre le temps aussi. On a une deuxième salve d'articles ce matin sur le sujet, sur cette candidature, avec des éléments pour comprendre le pourquoi de cette candidature. Le projet, est-il un bon candidat de premier tour? Peut-il passer la barre pour se qualifier? Et est-il un bon candidat de deuxième tour? C'est l'idée derrière cette question, c'est est-il en capacité de battre par exemple un candidat RN s'il se retrouvait au deuxième tour? Face à un candidat RN. Ça, c'est la question qui est posée par les articles ce matin. Je vous montre les articles dont on dispose. Regardez, on a un article dans Le Monde sur les ressorts de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, donc pourquoi cette candidature. On a un truc sur le timing Mélenchon, effectivement, alors que la gauche non-mélenchoniste, pour l'appeler comme ça, j'aime pas trop l'expression, mais bon, la gauche qui ne se range pas derrière Mélenchon doit se réunir pour aujourd'hui pour parler d'une éventuelle primaire pour désigner un éventuel candidat unique de cette partie de la gauche. Mélenchon lui a annoncé déjà sa candidature, donc il y a un timing intéressant. Et puis, j'ai recherché à la toute fin aussi un article qui vient de tomber ce matin dans le Huffington Post, où est-ce qu'il est ? Je l'ai mis après le sport. Sur pourquoi une victoire de Jean-Luc Mélenchon contre le RN est plus compliquée qu'il ne l'imagine. Analyse du Huffington Post. Ok ? Commençons peut-être par l'article du Monde. Les ressorts de la candidature de Mélenchon, en dépit de sa promesse de laisser la place, c'est vrai qu'après sa dernière présidentielle, il avait annoncé qu'il ne se présenterait plus et qu'il fallait laisser la place aux jeunes. Faites mieux, avait-il déclaré. Puis il a changé d'avis. Le leader insoumis se lance dans la présidentielle de 2027. Merci Thorsten Becker. Merci à toi. Alors, qu'est-ce que nous dit le Monde que nous ne savions pas hier matin ? Je passe les infos qu'on a déjà. Hein. Je suis candidat, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise à déclarer Jean-Luc Mélenchon, 74 ans, engagé en politique depuis le milieu des années 70, parlementaire sous François Mitterrand, ministre sous Lionel Jospin, ancien socialiste, vous le savez. Alors cette accélération de la campagne de LFI, parce qu'on est quand même à un an de la présidentielle, certains peuvent estimer que c'est tôt hein, pour se lancer dans la présidentielle. À ce jour, parmi les candidats déjà annoncés, vous avez M. Retailleau pour LR, Bruno Retailleau, vous avez Édouard Philippe, le maire du Havre, pardon, qui est parti très très tôt. Et puis donc là, on a Mélenchon parmi les principaux. Hein ? Est-ce que c'est pas trop tôt d'ailleurs ? Une campagne, c'est très long. Cette accélération de la campagne ne va pas arranger ceux qui espèrent encore l'union de la gauche et l'organisation d'une primaire, notamment les écologistes, les ex-insoumis de l'après et debout le mouvement de François Ruffin. Donc là, pour une union de la gauche, si on comprend LFI dans cette union souhaitée de la gauche, bon, bah déjà, c'est mal parti. LFI part de son côté. C'est ce que je vous disais, mardi 5 mai, c'était aujourd'hui. Ces derniers, donc écologistes, ex-insoumis de l'après et debout, devaient organiser un rassemblement à Paris voilà, pour parler d'une primaire. Pour désigner un candidat unique pour la gauche. Cette candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle préparée de longue date a été verrouillée, malgré l'émergence de figures nationales jeunes et populaires au sein du mouvement LFI. Contrairement à sa volonté affichée lors de la dernière présidentielle, vous pouvez retrouver des déclarations, des citations qui sont extrêmement claires. L'ancien candidat n'a pas été remplacé, comme il l'appelait pourtant de ses mots, en septembre 2022. « Je n'aspire pas à renouveler sans cesse le même rôle », avait-il dit quelques mois après le premier tour. Le soir de sa défaite, il faisait même semblant de vouloir passer la main « Faites mieux hein ». Tout le monde l'avait compris comme « C'est ma dernière campagne ». Et en 2021, en août 2021, dans le Dauphiné Libéré, il avait été encore plus clair encore en déclarant « Il est évident que c'est ma dernière candidature, c'est même un argument en ma faveur, je suis le seul à ne pas organiser une carrière. » Bon, il a changé d'avis. Alors, qui aurait pu être candidat à la place de Mélenchon ? D'ailleurs, très bonne question. Au sein de LFI, les noms ne manquaient pourtant pas à l'appel de la succession. Merci le Porco Rosso. Outre Manuel Bompard, la députée européenne Rima Hassan, qui est devenue l'un des visages les plus populaires au sein de LFI, plus récemment le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, dont on parle beaucoup hein, depuis quelques jours, cible d'attaques racistes depuis son élection, fait des émules et talonne Jean-Luc Mélenchon dans les études d'opinion. Avant eux, François Ruffin s'était longtemps installé dans le fauteuil du dauphin, mais ça on l'a un petit peu oublié, où l'avait placé Jean-Luc Mélenchon d'un « François est prêt en avant », c'était en 2023, c'est pas si vieux pourtant. Mais les désaccords de fond et les tensions en série entre les deux hommes auront raison du député de la Somme, écarté de la direction de LFI lui aussi, qui a claqué d'ailleurs la porte du mouvement à l'été 2024, accusant Jean-Luc Mélenchon, je cite, « d'être un boulet pour la gauche ». Ces deux-là sont plus copains, quoi. Actuellement, on en est où ? Le triple candidat déroule sa partition alors que les autres appareils de la gauche discutent encore. et toujours d'une candidature commune, sa stratégie de mobilisation de l'électorat abstentionniste. Portée depuis 2022 semble porter ses fruits, renforcée par le concept de Nouvelle France et la dénonciation du génocide à Gaza. Aux européennes de 2024, succès, et les filles récoltent plus d'un million de voix supplémentaires par rapport à 2019. Au municipal de mars, ça s'est plutôt bien passé aussi. Le mouvement a remporté 8 villes et a fait son entrée dans les conseils municipaux de la majorité des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Alors ça, c'est pour la dynamique. Il y a une dynamique LFI aujourd'hui, qui est incontestable. Il y a une dynamique Jean-Luc Mélenchon, qui est plus haut dans les sondages un an avant cette présidentielle que un an avant la présidentielle précédente. Il y a quelque chose. Mais, et la plupart des analystes se penchent sur ce point-là ce matin, revers de la médaille, Jean-Luc Mélenchon voit aussi son plafond de verre s'épaissir depuis 4 ans. Son refus en premier lieu de qualifier les actions du Hamas du 7 octobre 2023 de terroristes, préférant parler d'une offensive armée de forces palestiniennes, a marqué le début d'un rejet grandissant dans l'opinion. Depuis le début de l'année, il appuie cette stratégie du clivage permanent. Il a apporté son soutien sans faille à la Jeune Garde, groupuscule antifasciste dont certains membres sont accusés d'être responsables de la mort du militant d'extrême droite Quentin Derenque en février à Lyon. Les jours suivants, il déformait volontairement les patronymes juifs de Raphaël Glucksmann et Jeffrey Epstein. Il est le Jean-Marie Le Pen de notre époque, avait dénoncé alors Raphaël Glucksmann. Ses attaques contre les médias, il a exclu récemment plusieurs médias lors de deux conférences de presse, illustrent d'autant plus sa volonté d'apparaître comme un candidat anti-système. Alors c'est intéressant évidemment que LFI n'a rien à voir avec le RN, mais ce sont deux partis qui se présentent comme des partis anti-système. Dans la dernière enquête électorale menée par Ipsos BVA, avec un échantillon de 10 962 personnes inscrites sur les listes électorales, la perspective d'une élection de Jean-Luc Mélenchon est la plus rejetée, 81%, loin devant celle de Bardella ou de Marine Le Pen. C'est Hollande qui a eu une phrase sur Mélenchon où il dit... Attendez, histoire de plafond, là. Faut que j'essaie de vous retrouver la citation, qui résume un petit peu Mélenchon. Je vais essayer de la retrouver. On s'en fout que c'est Hollande qui la dise, mais c'est une espèce de résumé de ce que beaucoup pensent. Alors, je ne vais pas vous la retrouver. Je vais essayer de vous la retrouver. Peut-être qu'il est dans un article ce matin. Je ne vais pas vous la retrouver. Je vous la retrouverai peut-être plus tard. Voilà, ça c'est l'article du Monde qui rappelle un petit peu les infos. Il y a aussi une question de timing qui est réussie. Là, Mélenchon, c'est ce que nous disent les Échos ce matin, ce mardi matin, a pris de vitesse le reste de la gauche, ce qui en soi est une réussite. Mélenchon prend de vitesse le reste de la gauche. Le chef de file LFI a annoncé blablabla sa candidature, ok. Malgré sa machine insoumise bien huilée, ses concurrents à gauche l'estiment incapable de battre l'extrême droite. Comprenez, au second tour. Qu'est-ce que nous racontent les Échos ce matin? Alors du coup, d'abord il y a l'enthousiasme du côté de LFI. On n'a jamais commencé une présidentielle avec des gens qui considèrent que notre présence au second tour est envisageable, voire une hypothèse très probable, s'enthousiasme Manuel Bompard, coordinateur national de LFI. C'est clair qu'on est plus fort qu'en 2022, c'est ce que je vous disais. Jean-Luc Mélenchon avait fini juste derrière Marine Le Pen, on le rappelle, avec 22% des voix, ce qui en soi était déjà un très bon score. Nos résultats sont meilleurs aux européennes et aux municipales. Ça aussi c'est vrai. Meilleur qu'au scrutin précédent. Mais ces succès relatifs, écrivent les Échos, restent en deçà du pic de la présidentielle de 2022. Là, on parle des européennes et des municipales. Déferlante selon les insoumis, reflux selon ses concurrents. Ah oui, ça dépend, évidemment, si on compare les municipales, les européennes par rapport au score de la présidentielle et même des législatives, bien sûr, tout dépend quel chiffre on prend. Voilà. Chacun tord dans le sens qu'il arrange, écrivent les Échos. Pour s'imposer en avril prochain, parce que c'est ça l'enjeu. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être élu président de la République? C'est ça l'enjeu de nos échanges. Pour s'imposer en avril prochain, les Insoumis misent notamment sur l'expérience de leur chef de file. Grande expérience politique, un vrai talent de tribun, de prononcer des discours, très bon débatteur aussi en débat, hein. Donc ça, ce sont des vrais avantages dans une campagne longue, difficile. Quatrième candidature à la présidentielle. Le quadruple candidat à l'Élysée connaît peut-être mieux que quiconque dans la classe politique actuelle les dessous d'une campagne réussie. Les dessous d'une campagne réussie, c'est temporalité, c'est dynamique, Cette fois-ci, le leader insoumis pourra en outre s'appuyer sur une équipe composée de figures de son mouvement qui ont émergé récemment. C'est vrai qu'il a des relais médiatiques. On parle de M. Bagayoko, on parlait de Rima Hassan. C'est vrai qu'il a, il a des relais qui peuvent être potentiellement très puissants dans l'opinion publique. L'ancien socialiste sait aussi arrondir son image, troquer le costume du tribun tempétueux pour celui d'un père de la nation rassurant. Il en a fait la démonstration en 2017 et 2022, à chaque présidentielle, en bénéficiant de la dernière ligne droite d'importants ralliements d'électeurs. C'est ce que dit Manuel Bompard. Depuis 2022, on a mobilisé des gens, on part avec une base plus solide et plus élargie, je pense que c'est vrai. Un premier tour, ça se gagne d'abord avec une base que vous mettez en mouvement. Socle qui a notamment grignoté sur l'électorat des Verts, en recherche de plus de radicalité, estime une proche de Jean-Luc Mélenchon. Mais la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, pour élargir le socle, pour être le meilleur candidat de premier tour possible, pour être le plus à même de gagner ce fameux ticket de qualification pour le deuxième tour, voilà, et cette forme de radicalisation, cette stratégie, ponctué de polémiques sur le Hamas, le Monde en parlait, sur la mort de Quentin Derenck, le Monde en parlait, sur l'antisémitisme, a aussi fait Jean-Luc Mélenchon un repoussoir pour certains électeurs. Et un épouvantail pour la droite et l'extrême droite qui espèrent imposer un front républicain inversé, cette fois-ci un front républicain anti-LFI. Le revers de médaille de ces postures qui lui assure un socle électoral de 10%, c'est un rejet de 70% des Français, écrit par exemple le député socialiste Romain Eskenazi. Plus personne ne veut de Jean-Luc Mélenchon, ni à gauche ni dans le pays, c'est l'homme politique le plus détesté du pays, dit encore le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, vous imaginez les relations amicales et chaleureuses entre les socialistes et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon veut aussi profiter pour l'heure de la division du reste de la gauche, ce qui est aussi un fait, embourbé dans les querelles internes sur le mode de désignation d'un candidat. Nous, c'est carré, il y a une équipe, c'est vrai, un programme, oui, un seul candidat, a-t-il beau jeu de répéter dimanche, en face, la division. Quand tous ses concurrents seront encore en train de se départager, Jean-Luc Mélenchon pourra décliner son projet, par exemple. Merci Orle pour le soutien. Mais s'il passait enfin le premier tour... Ah oui, c'est vrai qu'il n'a jamais été au deuxième tour, ouais. Oui, c'est vrai. Mais s'il passait enfin le premier tour, j'ai eu un bug. Ah oui, c'est vrai. Combien de voix il manquait ? 400 000, c'est ça ? L'ancien sénateur aurait-il une chance de gagner face au candidat du RN ? Parce que c'est bien beau de se qualifier pour le deuxième tour, mais la question c'est ça, c'est peut-il devenir président ? L'ancien sénateur aurait-il une chance de gagner face au candidat du RN ? Dans l'hypothèse où c'est un candidat du RN qui serait au deuxième tour. Parce que oui, les sondages nous disent tous qu'aujourd'hui, sur le papier... est qualifié pour le deuxième tour soit Marine Le Pen, soit Bardella, selon ce qui va se passer en justice le 7 juillet prochain. Mais les sondages, c'est aujourd'hui, c'est à un an de la présidentielle. Qu'est-ce qui peut se passer en 12 mois ? Plein de choses. Peut-être qu'on n'aura pas de représentant du RN au deuxième tour. Peut-être que si, peut-être que pas. Donc la question, elle est plus compliquée que ça. La question n'est pas seulement de savoir si Jean-Luc Mélenchon peut battre un candidat du RN au deuxième tour, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut battre un candidat qui pourrait être Édouard Philippe, par exemple, hein, au deuxième tour. Je me permets d'ajouter ça à l'article du Monde. Du Monde ? Non, des Échos. Voilà. Fabien Roussel, le communiste, déclare « Jean-Luc Mélenchon est certainement le pire candidat de second tour » quand l'écologiste Marine Tondelier, elle, l'accusait fin d'avril de vouloir être le roi du cimetière à gauche. Jean-Luc Mélenchon promet, lui, de battre à plate couture le RN dans l'hypothèse d'un duel. Les sondages, pour l'instant, disent l'inverse. Voilà. Alors c'est intéressant, cette déclaration de Mélenchon. Lui promet de battre à plate couture le RN, et c'est une transition parfaite avec le dernier article sur Mélenchon que je veux mettre en avant ce matin, qui est justement un article qui a été posté il y a quelques heures sur le site du Huffington Post. Ouh là, je m'enrhume avec ce titre. Pourquoi une victoire de Jean-Luc Mélenchon contre le RN est plus compliquée qu'il ne l'imagine ? Mais je vais d'abord lire vos messages. Pardon, j'étais sur l'article. Alors, lisons. Quelques messages, je ne vais pas tous vous lire, ça va être impossible, mais... Alors... Bon, vous parlez beaucoup entre vous, hein. Donc, comme je n'ai pas toutes les discussions sous les yeux entre vous, je vois beaucoup s'interpellent entre de pseudo à pseudo. Alors, du coup, moi, ça m'intéresse moins parce que je ne sais pas à quoi vous réagissez. Jacques Saquins, voilà, un message complet. Un an de campagne, un an dans la présidentielle. Pour faire passer de 30 à 51% face à l'extrême droite, c'est très faisable, mais il faut arrêter l'auto-sabotage de la gauche. C'est le seul homme d'État qu'on a, nous dis-tu. Je vous lis. Merci Orle. Merci encore Orle. Salut Arismoun. Le problème, c'est que vous parlez beaucoup entre vous. Alors, du coup, j'ai des bouts de messages. Je suis désolé. Ouais, sorry, Sam. Oui, du coup, c'est compliqué pour moi de m'approprier vos échanges. Étienne, donne-nous ton avis sur les élections, un prono. À un an de la présidentielle, vous n'aurez jamais un pronostic dans ma bouche. Il faut être complètement débile pour faire un pronostic sur une présidentielle un an avant. Les gens qui vous. Si vous voyez des personnalités politiques ou des analystes en faire, vous pouvez leur dire qu'ils sont complètement débiles. Ça n'a aucun sens. On n'a pas les candidats, on a à peine les programmes, on n'a pas tout ce qui va se passer pendant la campagne. Ça n'a aucun sens de faire un pronostic aujourd'hui. Ça se trouve, c'est moi qui vais être élu. Grégorio, perso, ça m'emmerde ce scrutin parce que je n'ai pas particulièrement envie de voter Mélenchon, mais en étant réaliste, si c'est pas lui ou deuxième pour le second tour, ce sera un droitard comme Retailleau qui est aussi raciste que le RN, me dis-tu. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas laisser sa place, c'est quand même sa quatrième candidature, il a plus de 70 ans, me dit Sanglier Bourguignon, trop tard, il est candidat. Ok, très bien. Alors là, c'est un premier article, mais attention, mais attendez. Là, je voulais absolument vous lire celui-ci aussi, qui me semble pas mal. Alors, pourquoi une victoire de Jean-Luc Mélenchon contre le RN est plus compliquée qu'il ne l'imagine? C'est une analyse, c'est l'avis de Marceau Taburet dans le HuffPost. Peut-être qu'il a tort d'ailleurs. Si le candidat LFI croit pouvoir battre l'extrême droite à plate couture, c'est sa citation, l'implantation territoriale et l'essor du FN commandent de nuancer, estime le journaliste. Voilà. Donc dimanche soir sur TF1, Mélenchon a installé le match avec ce qu'il considère être son adversaire principal, donc c'est pas nous qui le disons, c'est lui, le RN. Il paraît qu'il va gagner, honnêtement je le crois pas, je sais même pas s'ils seront au deuxième tour, je pense que nous allons les battre à plate couture. Que le RN éventuellement ne puisse pas être au deuxième tour, je pense que c'est du domaine du possible dans le cadre d'une campagne. Si c'est Bardella ou Marine Le Pen, il faudra suivre la campagne de l'un et de l'autre et il faudra que la campagne soit convaincante, bien sûr, auprès des gens susceptibles de voter pour ce parti. Je pense que nous allons les battre à plate couture, dit encore le leader de LFI, en parlant soit de Marine Le Pen, soit de Bardella. Voilà une expression un brin présomptueuse, estime le journaliste. Que n'ont pas manqué de relever certains de ses opposants, Alexis Corbière, ancien LFI par exemple, expliquant que la progression du RN est constante à toutes les élections et estimant que M. Mélenchon sous-estime la menace RN. Du côté du PS, les critiques sont encore plus vives. On a entendu Pierre Jouvet tout à l'heure qui parlait de Mélenchon comme de l'homme politique le plus détesté du pays, vous l'avez déjà entendu. De fait, les sondages leur donnent plutôt raison à ses opposants, hein, puisque toutes les configurations impliquant Jean-Luc Mélenchon lui sont défavorables. Les données à prendre toutefois, écrit le HuffPost avec beaucoup de pincettes, des sondages à un an de la présidentielle, bien sûr. La campagne ne faisant que commencer, il est d'ailleurs difficile de se projeter dans un second tour qui n'existe pas encore. Merci le HuffPost de rappeler cette évidence. Mais les études d'opinion traduisent en partie un état d'esprit. Et quand on regarde les sondages aujourd'hui, dans une perspective de duel entre Mélenchon et Marine Le Pen ou Bardella, la balance pencherait aujourd'hui, très nettement du côté du RN, estime Jérôme Fourquet pour l'IFOP. Je ne vois pas comment il peut l'emporter face à Bardella au second tour, affirme encore Philippe Marlière, qui est un professeur de sciences politiques. Voilà. Le RN se poserait comme le défenseur de l'ordre, de la légalité, d'un néolibéralisme bontain, les milieux patronaux et les marchés. Rassuré serait largement de son côté, wow. Et nombre d'électeurs centristes et de droite s'abstiendraient ou voteraient Bardella. Un scénario auquel ne croit pas l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, malgré la porosité de l'électorat de droite et d'extrême droite, un député LFI, interrogé par le HuffPost, affirme que les gens comme Jean-Louis Bourlange Modem ou Clément Beaune Renaissance appelleraient à voter pour nous face au péril fasciste. Un second tour, c'est une nouvelle élection qui commence. Ainsi coutume de dire Manuel Bompard, le coordinateur LFI. Et il a raison. Un second tour, c'est une nouvelle élection qui commence. Il a raison. Reste que, dans l'équation, il faut mettre ça aussi. Les votes en faveur du RN sont en progression ininterrompue depuis 15 ans. 2012, Marine Le Pen, premier tour de la présidentielle, 6,4 millions de voix. 2017, 7,6. 2022, 8,1 millions. Idem aux européennes. Idem au municipal. Croire dans ces conditions que l'extrême droite sera battue à plate couture n'est-il pas trop aventureux? Bien sûr, il est possible de contenir la poussée RN, estime le média. Jean-Luc Mélenchon peut légitimement se dire qu'au vu de son expérience, des équipes qui l'entourent... Excusez-moi, je regarde un truc. Pour rien ce qu'il dit. Je suis sur le chat. De son positionnement politique et de l'implantation progressive de sa formation dans certains bastions, il a un rôle à jouer contre l'extrême droite. Il a déjà prouvé qu'il était capable de l'affronter de manière frontale lorsqu'il avait choisi de se présenter contre Marine Le Pen aux législatives de 2012 dans le Pas-de-Calais. Ni l'un ni l'autre n'avait finalement gagné. Dimanche soir, après le 20h de TF1, ça je ne l'avais pas vu, Mélenchon a accordé une longue interview aux médias en ligne brut. L'occasion de réaffirmer sa vision, ce pays n'est pas rempli de fascistes et de racistes. Quand il aura à choisir entre un péténiste, d'extrême droite et moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute sur ce qu'il se passera. À l'extrême droite, la sortie de Jean-Luc Mélenchon n'a pas manqué de susciter sarcasme et ironie. Le RN a toujours battu LFI à plate couture. Mélenchon jouera encore le rabatteur du système, persifle Jean-Philippe Tanguy pour le RN. C'est un candidat du rejet, dit-il à propos de Mélenchon. Pour nous, ce serait une victoire facile, déclaration du député RN Philippe Ballard. Pour autant, conclusion de l'article, il reste près d'un an de campagne, avec son lot de débats, de déplacements et de meetings. Pour Jean-Luc Mélenchon, qui affirmait il y a une dizaine d'années que la bataille finale opposerait la gauche radicale à l'extrême droite, le plus dur reste à faire. J'aime bien cet article. Il rappelle qu'à un an de l'élection, rien, absolument rien n'est joué. Je vous lis. Est-ce que tu ferais une analyse des programmes en live? Ouais, je pense qu'on fera ça, moi, je te dis, ouais. En tout cas, c'est de la présidentielle, on va beaucoup en parler ici, bien sûr, ouais. Pour essayer de comprendre un petit peu tout ça, ouais. Merci Papounova, merci Lucat, merci à tous les deux. Je vous lis, hein, je suis dessus. Jospin aussi était persuadé de battre le FN à l'époque, il me semble. Je ne pomme pas tout à fait. Jospin était persuadé surtout que le FN, à l'époque c'était Jean-Marie Le Pen, ne se qualifierait pas pour le deuxième tour, ce qui est différent. Il ne pensait pas battre le FN au deuxième tour, il pensait qu'il n'y aurait pas de FN au deuxième tour. Finalement, Il y a eu le FN et il y a eu c'était Chirac à face. Ouais. C'est autre chose encore. Jospin s'était trompé. D'ailleurs, après, il s'est retiré de la vie politique, d'ailleurs. On ne parle que de ces deux extrêmes, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la présence d'un candidat centriste droite. Oui, c'est l'hypothèse. Samuel, le rapport de Charles Allon va t'énerver. Oh, rien ne m'énerve, moi, tu sais. C'est l'avantage de se pencher sur l'actualité depuis 30 ans. Il dit, page 104, que ta chaîne est financée par France Télévisions. Il n'a rien compris au principe du sponsoring temporaire. Oh, je pense que M. Allon n'a rien compris tout court. Hein, la phrase est trop longue. Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse pour autre chose. Qu'est-ce que je disais ? Oui, oui, bien sûr. Là, l'article ne parle pas d'Edouard Philippe, ne parle pas de Villepin ou que sais-je. Parce que l'actualité, c'est la candidature de Mélenchon. Et les réactions à cette candidature. À chaque article sur la présidentielle, vous n'allez pas avoir une photographie de tous les candidats. Sinon, on va jamais y arriver. Là, l'actu, c'est Mélenchon. Et puis, demain, on aura un discours d'Edouard Philippe et on parlera d'Edouard Philippe. Et puis, quand je parlais d'Edouard Philippe, dans le chat, il y en a qui me disent « Ah oui, mais là, tu oublies de parler de Mélenchon. Ouais, » Ça marche pas comme ça. Là, c'est l'actu Mélenchon. Là. Bon, pas mal, hein, pour... Bon, on a bien fait de refaire une petite page Mélenchon, hein. Vous voyez, on s'est dit des choses. On s'est dit deux choses. Bon, on a parlé des premières infos sur ce fameux rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. On en reparle ce soir dans un stream dédié. Hein. On a parlé de cette série d'articles sur la candidature de Mélenchon. Hein, et on va se pencher maintenant sur Trump, le profiteur. Voilà. Jolie une de Libé, vous allez voir. Très graphique. Toute goldée. Allez, comme c'est beau. Trump, le profiteur. Depuis sa réélection, il a gagné 1,4 milliard. C'est pas mal. Enfin, lui et sa famille. Hein. Donald Trump, une présidence qui fait sauter le verrou de la fortune. En gros, ce que nous dit Libé, c'est jamais un président avait autant mélangé pouvoir et business. Voilà. Et il se fait de la thune. Ouais, j'allais dire il s'est fait de la thune. C'est pas terminé, il lui reste plus de 2 ans de mandat. Le locataire de la Maison Blanche et sa famille se sont enrichis de plus de 1,4 milliard de dollars depuis son retour au pouvoir. Donc en quoi, un an et demi, selon les estimations du magazine Forbes, hein, au prix d'un mélange de genres intense entre son mandat et ses business. Voilà. Là, on a l'évolution de la fortune de M. Trump. C'est vrai que là, 2026, ça décolle, hein. C'est joli. Hein. Voilà. Donc on a un gros dossier dans Libé, avec un éclairage notamment sur un fort soupçon de délit d'initié. Les analystes financiers ont observé à plusieurs reprises une frénésie sur les marchés juste avant des annonces inattendues du président américain, avec en conséquence de juteux bénéfices pour les investisseurs et de nombreuses questions. Lisons ce gros, cet épais, ce conséquent dossier dans Libération sur Trump, le profiteur. Merci Sagarotte pour le soutien. Qu'écrit Philippe Coste ? Dans Libé. Jamais sa cote de popularité n'avait touché un point aussi bas. Bon, cote de popularité au plus bas, fortune au plus haut, peut-être que ça lui va, hein, je sais pas moi. À 6 mois des élections de mi-mandat, Trump est jugé impopulaire par 62% des Américains, selon un sondage. J'ai bien dit impopulaire, hein, j'ai pas dit populaire. Selon un sondage d'ABC News et du Washington Post publié dimanche, bon, toutes les enquêtes d'opinion aux États-Unis disent la même chose, c'est savoir qu'il y a de moins en moins d'Américains qui soutiennent Trump. Sa gestion de la guerre en Iran, son bilan économique, sa lutte contre l'inflation, rien ne trouve grâce aux yeux de nombreux citoyens et de plus en plus de ses propres électeurs du camp MAGA, et les adversaires du président américain souhaiteraient désormais aborder un autre sujet embarrassant, celui de l'enrichissement personnel du locataire de la Maison Blanche depuis son retour au pouvoir en janvier 2025. Donc on n'est même pas un an et demi d'ailleurs, je disais un an et demi. On n'est même pas un an et demi. Trump, il est super riche, me dit Cubinito. Ouf, je l'éponge. 6,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec 6,5 milliards de dollars ? Bon, c'est pas fou, hein ? Ouais, non, si, quand même. Non, si, oui, il est riche, oui. Tout va bien. Tout va bien. Sanglier Bourguignon, mais c'est quoi le problème avec le fait qu'il s'enrichisse ? Alors, je sais pas. Peut-être qu'il est président des États-Unis. mais que normalement, ce qui serait sain, c'est que quand tu es au pouvoir d'un pays et que tu es businessman, tu mettes tes affaires de côté, hein, et que tu ne cherches pas à t'enrichir pour qu'on puisse éventuellement t'accuser d'avoir profité de ta position de président pour faire du business qui s'appelle un conflit d'intérêts. Peut-être. Lui, il est, tu vois, il est multimilliardaire. Hein. Comme toi, d'après les modérateurs, tu es multicompte, par exemple. Hein. Mais c'est bien que tu reviennes parmi nous voir comme ça, de temps en temps, après avoir été banni, après des propos problématiques, et que tu reviennes avec plusieurs comptes. Voilà. Donc, après, c'est normal qu'un multicompte défende un multimilliardaire quelque part. Bienvenue. Enfin, re-bienvenue. Je continue ? Je me régale. Un angle d'attaque qui a pris de la vigueur... Merci les modos, vous faites un boulot de fou. Un angle d'attaque qui a pris de la vigueur après la cinglante défaite de Viktor Orban mi-avril, l'éviction du Premier ministre hongrois en raison de la corruption patente de son régime, ne pouvait que rendre espoir à des démocrates atones depuis plus d'un an. Dopés par cet exemple, donc la chute d'Orban en Hongrie, ils ont constitué le 15 avril un groupe de travail parlementaire conciliant modéré et progressiste capable de se muer jusqu'en novembre en porte-voix de la lutte contre la corruption. Leur offensive vise les brebis galeuses du Congrès soupçonnées de délits d'initiés et plus simplement le président. J'apprends qu'aux États-Unis, eh bien, il y a un groupe qui s'est constitué, un groupe politique justement pour enquêter sur les délits d'initiés des proches de Trump et y compris de Trump, même si certains dans le chat amis multicomptes trouvent ça tout à fait normal. Si Christine Noem, ancienne secrétaire à la sécurité intérieure, a pu impunément attribuer 220 millions de dollars à l'entreprise de com du mari d'une collaboratrice pour une campagne de promotion bidon, si les transactions sur le pétrole s'emballent dans les minutes précédentes, avant hein, les annonces de la Maison Blanche sur la guerre en Iran, comment se fait-il qu'il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent quelques minutes avant des déclarations dont on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans? Intéressant ça. Si le secrétaire à la défense Pete Hegseth, le fameux, investi dans des start-up militaires liées au Pentagone, hein, Donald Trump lui-même donne l'exemple. C'est quoi un délit d'initié? Alors un délit d'initié, c'est quand tu mises sur les marchés avec des infos que les autres acteurs de ce marché n'ont pas. Hein, c'est interdit, c'est illégal. Hmm. C'est comme si tu jouais au casino ou au Monopoly avec des dés et que tu sais à chaque fois les chiffres qui vont sortir, par exemple. C'est interdit. Or, celui qui a les infos, celui qui va prononcer le discours, c'est justement le président, ou en tout cas, à minima, son entourage. Le président fait bien peu de cas des risques de conflits d'intérêts, des soupçons de pot de vin. Selon les dernières évaluations de Forbes et du New York Times, la fortune de Trump et de sa famille proche a progressé de plus de 1,4 milliard de dollars depuis son retour à la Maison Blanche, avec une fortune désormais estimée à 6,5 milliards de dollars, une progression spectaculaire que n'explique pas uniquement l'explosion des ventes de ses produits dérivés sur son site web, parce que le président vend des casquettes, vend des sneakers, vend des bouteilles de vin et autres t-shirts estampillés de son patronyme. Enfin, moi aussi je vais faire ça d'ailleurs, à la rentrée je lance mon merch, hein. Enfin, ce ne sera pas prêt en septembre, mais c'est l'un des projets ici. Ça va vendre des casquettes comme Trump. Ça va vendre des suites, ça va vendre des préservatifs à mon effigie, enfin de tout. Hein. Voilà. Ça, c'est à la rentrée, ça. Donc, il n'y a pas de mal. Hein. Alors ça lui a rapporté uniquement 8,8 millions de dollars. Donc, on est quand même très loin de l'augmentation d'1,5 milliard. Mais c'est plus qu'en 2023, quand même. Si la loi américaine interdit au président de recevoir des paiements de puissances étrangères, elle ne prévoit rien, au contraire, sur les conflits d'intérêts. Ah. Ça, c'est passionnant. La loi américaine ne prévoit rien sur les conflits d'intérêts qui pourraient concerner un président businessman. Voilà. Généralement, les locataires de la Maison Blanche s'appliquaient des règles éthiques pour s'éviter des conséquences politiques. Pas Trump. Alors, précisément, je crois qu'il l'a un peu fait pour son premier mandat, en prenant du recul par rapport à ses affaires. Et puis, au début du deuxième, il a dit « bah, j'avais fait des efforts sur le premier mandat, personne ne m'a remercié. Personne ne m'a remercié. Personne ne m'a dit que j'étais un mec formidable. Personne ne m'a donné le prix Nobel de la paix. Allez vous faire foutre !» Bon, il n'a pas dit « allez vous faire foutre hein. ». Mais il a vraiment eu cette déclaration où il disait « Personne ne m'a remercié pour la première fois, donc maintenant c'est full business ». Ça c'est vrai, vous pouvez retrouver ces déclarations. Lors de son premier mandat, il se contentait de loger au prix fort dans son hôtel de Washington ou à Mar-a-Lago les délégations étrangères en visite officielle. Maintenant, il n'hésite pas à empocher à titre personnel un Boeing à 200 millions de dollars offert par le Qatar. Le Qatar a offert à Trump un Boeing à 200 millions de dollars. Il a accepté ce cadeau. D'aucuns estiment qu'il aurait dû refuser pour qu'il ne soit pas soupçonné de conflit d'intérêts et, par exemple, d'écouter d'une oreille plus attentive ce que le Qatar souhaite, par exemple, parce qu'il a reçu un cadeau à 200 millions. Il a confié ses business à ses fils, toujours à la tête de son groupe immobilier Trump Organization et de Trump Media and Technology Group, la maison mère de son réseau Truth Social. Mais les deux entités prospèrent cette fois comme jamais, nourries avant tout par leur lien avec le président en place, par son pouvoir, par le poids des États-Unis sur la scène mondiale, source de profit personnel et par l'accès rémunéré à ses faveurs. Donald Jr., l'un de ses fils, dont on a parlé récemment, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs ici, a donné le ton dès le premier grand voyage officiel de son père au Moyen-Orient en mai 2025. Nous faisions attention pendant son premier mandat, voilà, c'est ce que je vous disais, mais on nous est tout de même tombé dessus. Cette fois-ci, on a décidé de respecter les règles, mais on ne va pas se brider. Voilà. Le premier mandat, on a fait attention, personne ne nous a dit merci. Bon là, maintenant, c'est let's go, c'est business. Le président lui-même, interrogé l'année dernière sur l'apparence douteuse de ces entreprises de crypto-monnaie, ne pouvait pas être plus clair. Je me suis rendu compte, c'est la citation que j'évoquais, je me suis rendu compte que les gens n'en ont rien à foutre, alors, vous voyez, j'étais pas très très loin de la phrase. Ah, je suis invité sur BFM ce soir à 19h30. Bonjour Samuel, nous aimerions beaucoup vous recevoir ce soir dans l'émission blablabla à 19h30 sur BFM pour parler du rapport sur le duel public, seriez-vous disponible? Non, hein. Non. On sera en stream, nous. On fait plus, hein. Non, puis j'ai un calendrier, par ailleurs, précis sur cette affaire-là. Voilà. Non, ce soir, c'est stream. Après le stream, je dirais que je pourrais pas y aller. Voilà, donc Trump a dit, premier mandat, j'ai fait des efforts, personne n'a rien à foutre, business quoi. Dans l'histoire des États-Unis, je suis le seul pigeon qui a jamais fait ça, personne n'en parle, personne ne m'en félicite. Vous voyez, j'ai pas inventé ces mots, hein, ce sont les mots de Trump. Hein. Trump rappelait ainsi qu'il se prive volontairement, comme ses prédécesseurs Herbert Hoover et John Fitzgerald Kennedy, ce qu'il a bien sûr omis de préciser, de ses 400 000 dollars de salaire annuel en tant que président pour les reverser chaque année au budget de fonctionnement de l'État. Trump ne touche pas son salaire de président. Merde, j'ai perdu mon stylo. 400 000 dollars tous les ans. Alors, et là, vous allez me dire, pour les deux derniers soutiens de Trump en France, qui sont peut-être là, mais cet homme est un saint. Mais il nous en faut des comme ça. Mais quel gauchiste! Mais quel trotskiste même! 400 000 dollars! En fait, il s'en fout. Pour le reste, ce parangon de vertu n'est pas si regardant avec les deniers publics. Trump, par exemple, demande maintenant 230 millions de dollars d'indemnité au département de la justice. C'est-à-dire qu'il abandonne ses 400 000 dollars par an, mais il demande 230 millions de dollars au département de la justice en réparation d'une perquisition de la police fédérale dans sa propriété de Mar-a-Lago en 2023. D'où est-ce que vous voulez qu'il demande 400 000 euros par an ? De même, il réclame 10 milliards au fisc américain parce que l'un de ses agents aurait illégalement divulgué sa déclaration d'impôt et celle de ses fils en 2021. Et actuellement, on nous raconte Libération, ces institutions officielles, qui sont toutes les deux sous la coupe de la Maison Blanche, négocient en ce moment ses indemnités à la baisse et lui verseront à coup sûr des millions. Voilà. Le président poursuit aussi en justice JP Morgan, Chase, je crois que c'est une banque, pour 5 milliards de dollars, après avoir fermé son compte après l'attaque du Congrès le 6 janvier 2021. Je savais pas que la banque avait fait ça. En juillet 2025, une chaîne de télévision américaine a versé 16 millions de dollars à Trump, qui l'accusait d'avoir monté une interview de Kamala Harris de manière à l'avantager pendant la campagne. Ce recours abusif aurait été rejeté par un tribunal, mais Paramount, la maison mère de CBS, attendait l'accord des autorités de la concurrence pour conclure une fusion avec les studios Skydance. Et du coup, bon voilà, il y a eu un petit arrangement. L'État a autorisé l'opération 2 semaines après la remise du chèque à Trump. L'histoire est dingue. Alors, arrêtons-nous un instant. Trump poursuit une chaîne de télé, CBS, en demandant 16 millions de dollars pour la façon dont une interview avait été montée. Un tribunal aurait estimé ce recours abusif, sauf que CBS, en tout cas Paramount, la maison mère de CBS, attendait le feu vert des autorités américaines pour une fusion avec Skydance. Voilà. CBS a payé, et deux semaines après le chèque, l'État a autorisé la fusion. Malinx le lynx. En décembre 2024, un mois avant la cérémonie d'investiture, ABC News a payé par ailleurs 15 millions de dommages et intérêts à l'amiable, donc avant le passage en justice, au futur président après sa plainte en diffamation. Un journaliste avait mentionné sa condamnation au civil pour viol, alors que le procès ne concernait qu'une accusation d'agression sexuelle. 15 millions. Quand on touche comme ça, par ses poursuites, ses procès, y compris contre le fisc américain, ces millions de dollars, on peut lâcher le salaire. Alors c'est pas tout, attendez, vous allez me dire, mais c'est énorme, c'est pas tout. Dès la réélection de Trump en 2024, les titans des réseaux sociaux se sont empressés d'indemniser le président pour l'avoir banni de leur site après l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. X a payé 10 millions à Trump, Meta a payé 25 millions à Trump, YouTube a payé 22 millions et demi à Trump. Voilà. Tous ces règlements devaient, selon Trump, être versés sur un compte destiné à la future bibliothèque présidentielle. Or, ce fonds a été dissous en septembre. Et les démocrates du Sénat aimeraient savoir maintenant où est passé l'argent. On sait également qu'Amazon, j'adore cet article, on sait également qu'Amazon a versé un cachet de 28 millions de dollars à son épouse Melania Trump pour sa participation à un documentaire, vous savez, à sa gloire. 28 millions de dollars pour un documentaire. Jeff Bezos clôt ainsi ses multiples contentieux avec Trump et ne risque plus de voir sa filiale informatique AWS évincer des contrats avec l'État américain. C'est cher pour un documentaire, hein, 28 millions, mais peut-être que ça arrange aussi les business de l'entreprise qui est derrière. L'accès au président nourrit également un négoce juteux, Donald Jr. et Eric Trump, entre autres, avec l'appui de Zach Witkoff, rejeton de Stephen Witkoff, ami et négociateur en chef de la Maison Blanche, ont ouvert un club ultra select appelé The Executive Branch à Washington, dont le droit d'entrée à 1 million de dollars promet des contacts occasionnels avec Trump. Les frais d'admission dans son club résidence floridien de Mar-a-Lago sont eux passés de 500 000 dollars avant l'élection à 1 million de dollars après l'élection. Et la cotisation annuelle de 20 000 à 32 000 dollars. Le palais kitsch du président hôtelier reste la destination privée de dizaines de groupes de pression, de lobby, en quête de contact avec leur hôte prestigieux, le lieu de réunion d'organisations politiques proches de la Maison Blanche qui ont dépensé plus d'un million de dollars en séjour et réception 2025. Plus simplement, les propriétés de Trump demeurent le passage obligé des délégations étrangères en visite officielle. C'est marrant, les délégations étrangères en visite officielle vont dans les hôtels et les résidences privées de Trump, peut-être pour s'attirer les bonnes grâces du président. C'est énorme. C'est énorme. Dans les pays du Nord, tu t'achètes un Kit Kat avec la carte bleue du gouvernement, limite tu vas en prison, hein, dans les pays d'Europe du Nord. Mais aux États-Unis, c'est un peu la fête quand même. Hein. Merci Sagarotte, merci Insert Coin, merci. Selon l'organisation Citizen for Responsibility and Ethics in Washington, 55 dignitaires de 21 pays ont séjourné 60 fois dans ces hôtels. Dans ces hôtels. Comme le dit Octavito avec beaucoup d'élégance dans le chat, tout le monde lui suce le derrière goulûment. 55 dignitaires de 21 pays ont séjourné 60 fois dans ces hôtels, golf et résidences du club depuis son retour au pouvoir. Bon, après, je vous passe les golfs, tout ça, les projets de golf. Ils construisent des golfs un petit peu partout. Sous licence Trump, ça se vend comme des petits pains. Voilà. La Maison Blanche assure qu'il ne s'agit là que de transactions privées entre la Trump Organization et des promoteurs de ces terrains de golf, alors que ces affaires reposent avant tout, estime Libération, sur des échanges de bons procédés entre les gouvernants locaux, hein, parce que ça se vend à l'étranger, hein, les golfs Trump, vous en vendez actuellement en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Inde, aux Philippines et en Indonésie. Bon, je vous passe le business des resorts, des résidences de luxe, tout ça. Voilà, aux Maldives, à Jeddah, à Riyad. Voilà, vous avez à peu près l'idée générale. Le dossier de Libé est à lire aujourd'hui. Le président a également réduit à 20% les droits de douane de 46% imposés au Vietnam en avril, ce qui est plutôt sympa, après que le pays a approuvé un méga projet de Golf Trump près de Hanoï au prix d'expropriation dramatique d'agriculteurs dans la région. Sinon, vous avez les crypto-monnaies aussi. Donald Trump Jr. a maintes fois décrit la reconversion familiale dans les crypto-monnaies comme une revanche contre l'adversité quand en 2021, aucune banque ne nous faisait plus crédit, pari tenu. Depuis le retour à la Maison-Blanche du père, donc en un peu plus d'un an, les 5 entreprises de crypto-monnaies de la famille Trump ont généré près d'$1 milliard, contribuant à l'essentiel de leur fortune. Même Baron Trump, petit dernier de la fratrie, 20 ans, a empoché en 2025 près de $150 millions grâce aux transactions familiales. Les cryptos. Je ne lis pas tout le dossier, hein. Vous avez compris l'idée générale. C'est assez fouillé, c'est gavé d'infos. C'est à lire dans Libé, c'est page 3 et 4, et c'est la une de Libé aujourd'hui. Alors du coup, vous avez aussi les délits d'initiés. Peut-être qu'on peut lire ça d'ailleurs. Peut-être qu'il ne faut pas que je passe trop vite là-dessus. Là, on a parlé de. Là, on est plutôt sur les soupçons de corruption. En gros, il accepte de l'argent, alors privé ou public, d'entreprises privées ou d'État, concernant des affaires qu'il a en privé. Et il est soupçonné que du coup. Il regarde un œil plutôt, comment dire, arrangeant les affaires de l'entreprise privée ou du pays concerné. Voilà. Et puis là, on est sur autre chose, on est sur les délits d'initiés. Autour de Trump, un fort soupçon de délits d'initiés, les analystes financiers ont observé à plusieurs reprises une frénésie sur les marchés juste avant des annonces inattendues du président américain. Et comment les marchés peuvent réagir avant des annonces? C'est toute la question. Avec en conséquence de justes bénéfices pour les investisseurs et de nombreuses questions. Ces messages hérissés de majuscules et de points d'exclamation offrent aussi un bon business pour des investisseurs bien informés. Les analystes financiers ont observé une frénésie d'opérations sur les marchés dans les minutes précédentes. Les annonces les plus inattendues de Trump, des spéculations qui ressemblent fort à des délits d'initiés. D'initiés, c'est quand un acteur d'un marché économique ou financier a une info que les autres n'ont pas, c'est interdit. Le 9 mars, par exemple, 9 jours après le début de l'offensive contre l'Iran, CBS publié sur X à 15h16 l'extrait d'une interview avec le président, le conflit est tout à fait fini, pratiquement fini. L'annonce provoquait une chute soudaine de 14% des cours de pétrole. Or, dès 14h29, donc interview publiée à 15h16, et à 14h29, vous aviez eu des mouvements spectaculaires qui avaient commencé sur les marchés du pétrole, rapportant des millions de dollars à leurs opérations. Après le message de Trump. Même étrange scénario.
Mais non ! Mais hasard de dingue !
Le 23 mars, quand Trump se félicitait de conversations bonnes et productives avec Téhéran ouvrant la voie à une résolution complète et totale du conflit, 14 minutes plus tôt, les marchés du Brent avaient commencé à s'agiter de manière inexplicable.
Mais non ! Mais hasard de dingue !
Anticipant visiblement cette annonce intempestive. Polymarket et Kalshi, des sites de paris en ligne sur les événements à venir, sont aussi concernés. En témoigne l'inculpation pour délit d'initié fin avril de Ganon Ken Van Dyck, membre du commando chargé de la capture de Maduro en janvier. Dès décembre, le soldat avait ouvert un compte sur Polymarket pariant $32 000 sur une dizaine d'événements futurs relatifs au Venezuela et empochait un gain de $409 000 après le transfert de Maduro à New York. Parce que autant... L'enrichissement de Trump avec ses business n'est pas encadré par la loi américaine, autant le délit d'initié aux États-Unis, ça rigole pas trop avec ça, quoi. Business is business, hein. Donc là, vous avez tout l'encadré sur ces délits d'initié. Le secrétaire de la Défense, Pete Hegseth, lui, par exemple, est soupçonné d'avoir tenté d'investir dans des industries militaires quelques semaines avant le début du conflit en Iran. Ouais. Philippe Coste à New York, à lire dans Libé. Voilà. Édito, on va finir avec l'édito. L'édito, c'est un article où le journaliste donne un peu son avis là-dessus. Un édito bien écrit, c'est à la fois un édito qui donne un avis, mais c'est aussi un... notre multicompte qui nous dit, on verra s'il est condamné à mort. S'il est condamné un jour, pour l'instant, ce ne sont que des accusations de la part de Libération. Alors Libération, mais Sanglier Bourguignon n'écoute pas, nous a expliqué que le fait que... qu'un président américain s'enrichisse avec son business n'est pas encadré par la loi. Il ne peut pas être condamné, mon ami, mais tu n'écoutes pas, en fait. Il n'y a que ce que tu as envie de dire qui est important, comme tous les gens qui ont des œillères. Et Libération nous explique qu'il ne peut pas être condamné puisque ça n'est pas encadré par la loi. C'est juste de l'éthique, ce n'est pas de la loi. En revanche, sur les délits d'initié, effectivement, ça pose des problèmes. Combien de comptes, au fait, Sanglier Bourguignon, au final ? Notre ami multicompte, là. Nuisance. Alors je parle pas de Sanglier Bourguignon, je parle du titre de l'édito d'Alexandra Schwarzbrod. Plus rien ne nous surprend de la part de Trump et c'est bien là le drame. Cet homme parvient à faire passer ses outrances, ses transgressions, ses fake news et jusqu'à ses malversations pour une dinguerie de plus, émoussant peu à peu notre capacité collective à nous indigner. Et pourtant, il y a de quoi faire et c'est maintenant qu'il faut être vigilant car le président américain, lui, ne l'est plus du tout. Dans son esprit, les vannes du business et du fric sont ouvertes et c'est là qu'il va finir par commettre l'erreur de trop. Un de nos correspondants aux États-Unis a mené l'enquête sur l'enrichissement de Trump depuis son retour à la Maison-Blanche et ce qu'elle rapporte est effarant. On peine à croire que de telles pratiques soient possibles dans un pays comme les États-Unis. Convaincu d'être protégé par une cape d'invincibilité de super-héros, Trump mélange allègrement les gens, profitant de son statut pour faire payer tout ce qui porte son nom, de ses casquettes aux hôtels et golfs, affichant le célèbre patronyme en lettres dorées. Il fait payer à prix d'or la moindre location, entrée aux cotisations annuelles du club résidence de Mar-a-Lago en Floride et de tous les hôtels ou golfs qu'il possède à travers le monde, ce qui n'empêche pas les lobbyistes de s'y précipiter dans l'espoir d'avoir accès à lui. En gros, que vous soyez chef d'État ou businessman, si vous voulez une faveur de Trump, il suffit de payer. Et l'on vous passe les investissements dans les crypto-monnaies et surtout les multiples projets pharaoniques envisagés au Moyen-Orient, de Gaza à la Syrie en passant par l'Arabie Saoudite, des Rivieras en veux-tu en voilà, et la population locale qui n'a qu'à aller voir ailleurs si elle y est. Pour l'instant, personne n'ose bouger, car Trump a encore un fort pouvoir de nuisance. Mais sa cote de popularité plongeant, les démocrates se sentent des fourmis dans les jambes, ils ont bien l'intention d'utiliser toutes les lézardes possibles dans la statue en or massif que Trump s'est forgé. Il serait temps. Écrit Libé, magnifique statue par ailleurs. Il n'est pas impossible que moi je lance, comment on appelle ça, vous savez, quand on a des créateurs de contenu qui lancent des collectes de fonds, là, ça a un nom ça. J'aimerais bien, dans mon, parce que là j'ai mon futur studio, là bientôt à la rentrée. Est-ce que une petite statue, un peu comme ça, de Samuel Etienne, un crowdfunding. Je vais monter un crowdfunding, voilà, pour que moi aussi j'ai ma statue goldée comme ça. Dans mon studio. Il s'est amaigri de ouf sur sa statue dorée, me dit le Luchu. Ouais, mais enfin, peut-être ça permet aussi de... Peut-être qu'elle est moins chère, du coup. C'est de toute beauté. J'adore, oui. Moi, j'aime bien. Merci, Sylvain est bon. Merci, Ken77. Merci pour les beats, Rez9. Est-ce que je me présente en 2027? C'est trop tôt. J'ai un autre calendrier avant. On pourra la poser sur la cheminée ? Non, elle sera trop grosse. Elle sera trop grosse. Merci. Merci, Elotano, pour ton message. Oh, j'ai envie de me faire un café, mais j'en ai déjà bu un ce matin. J'essaie de boire pas plus d'un café par jour. J'en ai déjà bu un ce matin. Vous croyez que j'ai le droit ? Je ne suis pas d'accord avec cette idée, me dit Clément Coquine, qui estime peut-être que c'est un petit peu la folie des grandeurs. Cette statue en or de Samuel Etienne, c'est beaucoup trop petit pour toi, me dit Clément Coquine. Il faudrait plutôt renommer les Champs-Élysées à ton nom, les Champs Samuel Etienne, et remplacer l'Arc de Triomphe par une vraie statue de moi en or. Ah ouais. Ah ouais. Du déca ? Non, mais le problème, c'est l'acidité du café qui me fait un peu mal au ventre. On s'en fait un petit, vous m'autorisez, parce que c'est une grosse revue de presse ce matin. On est quand même déjà à 2h12 de revue de presse, et il reste encore une histoire de mystérieux virus sur un bateau. Bardella qui aurait promis, selon Mediapart, la tête de l'ARCOM à Hanouna, ce qui est surréaliste comme histoire. Bon. Et puis un petit peu de PSG, un petit peu de Tour de France aussi. J'ai le temps d'un petit café ? Vite fait ? Ou un verre d'eau ? Oh, un petit café. Allez, un petit café. Je suis hyper rapide. Regardez, je prends cette tasse. Je prends cette tasse. 2h30, t'as pas commencé à 10h ? Oh non, non, j'ai commencé à 9h30. Oh non. J'arrive. Je vous laisse discuter entre vous, amis qui nous écoutez en podcast, pardon, il va y avoir 30 secondes de blanc, c'est moi qui fais un café. La résolution aura duré un jour, ouais, c'est vrai. Bon, c'est vrai, c'est pas beaucoup, non mais c'est difficile de faire une revue de presse sans boire du café en vrai. J'ai mal aux jambes parce que j'ai repris la course à pied aussi. Alors c'est pas une colique néphrétique, hein, je vous rassure, c'est juste que je me suis remis à courir et les jambes sont un peu dures. Donc là, mes jambes sont gorgées d'acide lactique, c'est magnifique d'ailleurs. Et donc le moindre pas, les habitués de la course à pied connaissent ça, abus sur la douleur. Ah non, c'est vraiment, elles sont très douloureuses. J'ai repris là après une grosse pause et c'est vraiment, c'est très difficile. D'ailleurs ce matin j'ai doublé quelqu'un. Parce que je pars vraiment de zéro, hein, donc j'ai beaucoup ralenti et j'ai doublé quelqu'un qui marchait. Mais il part pas mon café là. Je l'avais pas fait démarrer. Oh, j'ai mal. Voilà. Mais j'ai doublé plusieurs fois parce que c'était un tour, c'était une boucle. Voilà. J'ai progressé par rapport à hier. Hier, j'ai doublé une personne qui marchait. Aujourd'hui, j'ai redoublé une personne qui marchait. Et j'ai doublé deux personnes, deux hommes qui couraient. Moyenne d'âge 80 ans. Qui n'allaient pas dans l'autre sens. Non, qui couraient. Voilà. On était les trois papis du parc. Philippe Croison. C'était une statue. Oh, j'adore. Ah, j'aime cet humour. Non, mais voilà, j'ai pris des bonnes résolutions après plusieurs mois d'arrêt du sport, la famille, les enfants, tout ça, la famille nombreuse, le taf, tout ça. Donc, je me suis un peu laissé aller. Et je me regarde le matin, je me reconnais plus. Ce corps magnifique sculpté dans le marbre qui était le mien pendant des années est devenu une petite motte de beurre en train de fondre au soleil. Donc on s'est repris en main, voilà, j'ai repris hier, tous les matins, avant d'emmener les enfants à l'école, avant la revue de presse, une course d'une heure. Mais on part de loin, ça fait mal. Il y a un monde où je vomis dans un instant. Au frigo, il y avait un lait d'avoine qui a une bonne dizaine de jours. Voilà. J'ai tenté. Je sens rien de spécial au niveau du goût et de l'odeur, mais si à un moment je me mets à vomir partout sur ma tablette, vous saurez d'où ça vient. Ah, ça fait du bien. Et mon copain s'y est remis aussi au sport, me dit Cécile, mentalement c'était lourd pour lui de ne pas se reconnaître. Ah bah oui, le corps qui devient tout mou là, ouais. Comment tu apprécierais d'être encouragé? S'il est motivé, il n'a pas besoin d'encouragement, mais... Faut juste peut-être... Si le sport est important pour lui, faut peut-être pas... Tu vois, ce qui pourrait l'encourager, c'est que tu lui dises pas... Ah quoi, tu vas encore courir? Je pensais qu'on se ferait un petit apéro, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Parce que parfois, le sport, c'est pas toujours facile de se motiver. Et puis, parfois, les proches, sans penser à mal, parfois, tu peux avoir un mode de, tu cours encore aujourd'hui, tu vois. Bah, laisse-le vivre son truc, quoi. Sauf si vous avez 15 enfants et qu'ils s'en occupent jamais. Parce que le mec est tout le temps dehors avec ses baskets, là, avec son petit short en terrial. Et là, il faut lui faire la marque, mais tu vois, sinon, non, quoi. Laisse-le courir. Pas après les autres filles, bien sûr, hein. Courir tout seul, quoi. Voilà. On enchaîne? Attends que j'ai mon café? Allez, go. Qu'est-ce qu'on a après? Allez, sujet suivant. Bam, ce qu'il y a de l'actu ce matin. Boum. Oh oui. Oh, le bateau, le virus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, 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 oui. Le mystérieux bateau, le mystérieux virus. On va tous mourir. Non, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Un bateau, trois morts, un mystérieux virus. Attends, il faut, faut que je prenne ma voix qui fait peur.
Ah, j'ai des trucs là-dessus.
Un bateau. Trois morts. Et un mystérieux virus. Les scénarios de la contamination du MV. Rodius.
Voilà, maintenant que je vous ai bien fait peur, je vais vous dire qu'au contraire, il ne faut pas trop s'inquiéter. Après trois décès et au moins trois autres cas d'un syndrome respiratoire grave survenu entre l'Argentine et le Cap-Vert, les experts cherchent à comprendre l'origine de la contamination. Voilà, plein d'articles dans la presse ce matin, je vous ai pris celui du Figaro. La croisière ne sait... Oh non, ils l'ont pas fait. La croisière ne s'amuse plus du tout. Oh là 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 là, le début d'article. Alors, La croisière s'amuse, c'était une série il y a très longtemps. Ça se passait sur un bateau de croisière et c'était les aventures de l'équipage et puis des passagers. Waouh, La croisière s'amuse. Waouh. Ah ouais, vous êtes obligé de se faire le. Comment on appelle ça, le générique. Waouh, putain, je l'aurais pas fait moi. Ah, il y avait aussi, je me rappelle, ça me rappelle une croisière aussi. Il y avait une épidémie de gastro sur le bateau, vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ce bateau? Il y avait une épidémie de... Love Boat, ça s'appelait. La série Love Boat. La croisière s'amuse en français. Il y a une épidémie de gastro sur un bateau. Wop, hop, hop. Eh ben, ils étaient pas dans la merde, je peux te le dire, moi.
Un nouveau chemin.
La bande... Le générique de Love Boat, de la croisière Gamuse, s'amuse, c'était ouf. Vous êtes prêts?
Capitaine.
C'est le médecin. C'est Steward sympa. C'est lui. Ah non, lui c'est la compta, je crois. Ça c'est le barman. Quelqu'un me dit il y a eu trois morts quand même. Ah non, non, pas dans le Love Boat. Hein. Ah non, 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 sur le bateau, là, dans le Figaro. Non, c'est pour ça que j'étais un peu surpris que le Figaro commence avec cette attaque quand même. La croisière ne s'amuse plus. Ça, je l'aurais pas fait. La croisière ne s'amuse plus du tout, écrit le Figaro. Donc, voilà, je suis pas sûr du clin d'œil. Justement, il y a quand même eu trois morts. C'est peut-être pas terminé. Après trois semaines de navigation, le MV Hondius, donc c'est le navire, parti d'Ushuaïa en Argentine pour le Cap-Vert, déplore trois morts dans un couple de septuagénaires néerlandais. Un autre est hospitalisé en Afrique du Sud. Deux membres de l'équipage nécessitent des soins médicaux urgents. Hein, c'est un peu chaud. Selon la compagnie maritime néerlandaise, l'Organisation mondiale de la santé soupçonne un foyer possible d'antavirus, H-A-N-T-A-V-I-R-U-S, antavirus, Infections pouvant provoquer un syndrome respiratoire aigu. Bon, syndrome respiratoire aigu, on n'aime pas trop ça. Hein. Et ayant été confirmé chez l'un des malades. Voilà. Donc c'est pour ça que le titre mystérieux virus, non, on sait sans doute ce que c'est. Quoi. Ce lundi, le navire restait stationné depuis 24 heures en face du port de Praia au Cap-Vert. Les voyageurs n'étaient pas autorisés à débarquer. Les mecs sont coincés sur le bateau. Quoi. Les voyageurs se sont-ils contaminés à bord ou lors de leur escale en Argentine? Le virus peut-il se transmettre d'un croisiériste à l'autre? Le Figaro fait le point sur les scénarios possibles à ce stade. Alors, qu'est-ce que c'est les antivirus? Les antivirus sont présents sur toute la surface du globe, déjà. Ceux pouvant infecter l'homme circulent chez certaines espèces de rongeurs et sont transmis principalement par inhalation de poussière et d'aérosols contaminés par les excrétas. Alors, j'ai appris un mot ce matin. Les excrétas des rongeurs, c'est-à-dire les urines, les déjections, la salive des rongeurs. On distingue les antivirus de l'ancien monde, donc Europe, Asie, Afrique, de ceux du nouveau monde. Alors, les premiers, ancien monde, provoquent des fièvres hémorragiques à syndrome rénal. Les seconds sont à l'origine de syndromes pulmonaires dans la majorité des cas graves avec atteinte cardiaque. Donc là, il s'agirait plutôt des antivirus du nouveau monde. Qui a embrassé un rat, demande Jesper 16. Ben, c'est la question. Ouais. La létalité des antivirus de l'ancien monde va jusqu'à 15%. Voilà. Pas en France, où les cas sont sporadiques. Mais la létalité pour l'antivirus du Nouveau Monde est de 40%. Létalité, c'est la mort, quoi. Même si les cas sont bien plus rares. 300 cas pour toute l'Amérique contre des milliers de cas en Chine. Indique-t-on du côté de l'Institut Pasteur. Les cas de transmission interhumaine sont particulièrement rares et connus uniquement pour l'antivirus AND ou ANDES, présent en Argentine et au Chili, et ce dans le contexte de contacts très étroits prolongé. Des contacts très étroits prolongés. Bon. OK. Voilà. Soit des cas familiaux, soit en milieu hospitalier où le virus se transmet de patient à soignant, explique l'épidémiologiste. Selon elle, donc la chercheuse, les deux membres d'équipage nécessitent des soins sont peut-être des professionnels de santé. Voilà. Peut-être ont-ils été en contact avec des passagers malades. Un bateau parti d'Argentine où circule ce virus, justement, Andes. Ah. La proximité forcée sur un navire relativement petit, la contamination d'un couple et de personnels médicaux, autant d'indices qui plaident pour un possible scénario de contamination interhumaine. La prudence doit cependant rester de mise. Pour l'instant, sur les 6 cas, un seul a été confirmé comme une infection à antivirus par biologie moléculaire, dont la souche est en cours de séquençage. On devra en savoir plus dans les prochaines heures. Seul le résultat de ce séquençage, qui peut se faire en quelques heures, permettrait de confirmer qu'il s'agit de l'antivirus Andes. De quelle nationalité les malades? Les deux morts, je crois, sont néerlandais. C'est un couple de retraités néerlandais, je crois. Dans ce scénario, une personne aurait pu être contaminée lors d'une expédition en milieu naturel en Argentine ou au Chili, d'accord? Et après un temps d'incubation, elle aurait déclaré la maladie sur le bateau avant possiblement de contaminer d'autres croisiéristes. Mais d'autres antivirus circulent en Amérique du Nord avec un syndrome cardio-pulmonaire, donc ce n'est pas forcément celui-ci. À ce jour, on ne sait pas ce que les patients ont fait dans les deux mois précédant l'apparition de symptômes. L'incubation est d'une à huit semaines. Oh putain, l'incubation peut durer deux mois. C'est chaud ça. Autre scénario, celui d'une contamination groupée de touristes ayant participé à une excursion commune avant de monter à bord. Dans un environnement où le virus était présent. Troisième scénario, bagages stockés à un endroit avant de monter sur le bateau sur lequel les rongeurs infectés auraient uriné. Rappelons que le virus peut survivre longtemps en milieu extérieur. Eh ben, c'est une belle saloperie. Des tests sérologiques et moléculaires s'imposent pour en savoir plus. Il faudra aussi interroger les passagers sur les circonstances dans lesquelles ils ont pu être exposés au virus. Deux mois d'incubation, ça va être chaud. Hein. Le risque pour l'ensemble du public demeure faible, rassure l'OMS. Mais pour les quelques 150 croisiéristes qui sont sur le bateau coincé là, du MV Andus, la suite du périple reste incertaine. Seront-ils condamnés à une quarantaine prolongée, anxiogène et frustrante face au port de Praia? Les cas symptomatiques doivent être isolés des autres voyageurs, puis pris en charge rapidement au milieu hospitalier. Pour les autres, c'est très compliqué, on est sur un cas assez unique. Quelqu'un me disait dans le chat qu'ils avaient reçu l'autorisation de débarquer? Je vais aller voir ça. Peut-être aux Canaries, un truc comme ça, non? Andus. Je vérifie cette info. Merci Mande Chocolat. Merci Cubinito. Merci. Non, je l'ai pas, cette info. Je l'ai pas, cette info. Canaries? Il y a 5 minutes, Libé. Antivirus, l'Espagne accepte un accostage du bateau aux Canaries. Bon, si vous êtes aux Canaries, barrez-vous, hein, par contre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Love boat, excusez-moi. C'est quoi cet article qui fait 2 lignes? C'est juste. Ah, c'est juste ça? Ah, bah, il est long. Ah, bah, c'est court. Ok. Antivirus. Envisager. Ouais. Bon, à voir, à confirmer, à voir quand même. Ah, accostage, je veux pas dire débarquement, vous avez raison. Ah oui. Ah oui, vous avez raison. Ah oui. Donc cassez-vous quand même des Canaries si vous êtes aux Canaries. Hein. Cassez-vous quand même.
Je peux me permettre.
On vous voit ceux dans le chat qui dit qu'il faut balancer des bombes sur le bateau. Hein. Je vais vous dénoncer à la police, moi. Merci, Joka. Jobac le fourbe. Merci à toi. Retailleau qui va encore tomber sur l'Espagne. Elle est bonne, celle-là. J'ai la ref. Je devais y aller cette semaine aux Canaries, mais mon vol a été supprimé des Tibes. Eh ben, tu... Ben, tant mieux, peut-être. Voilà. Bon, on va suivre cette histoire. Je voulais vous en parler. C'est assez court, les informations qu'on a pour l'instant, mais je voulais vous en parler parce qu'il n'est pas impossible que dans les prochains jours, on en reparle. Voilà. De cette histoire. Hein, quoi? Quoi? Hydroxychloroquine, quoi? Hein? Vous avez arrêté, oui? Vous êtes déchaîné ce matin? On va suivre. Bon, j'aimerais pas être sur le bateau là. C'est quoi ça? C'est des. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Qu'est-ce qu'ils ont empilé derrière là? Ils ont empilé des zodiacs? Ah non, c'est des bateaux, c'est les chaloupes de secours ça. Ah, c'est empilé chez eux. Ah oui, non, mais ça doit être oui. Ah, ils en ont beaucoup quand même. Hein. Ok. Bateau là. Ok. Bon, force aux passagers. Hein. J'espère que voilà. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Ça va être une belle saloperie. Alors cette info qui arrive à aller un peu what the fuck. On va la prendre avec prudence, même si elle émane d'un média sérieux et extrêmement rigoureux, qui est Mediapart. Le petit logo que vous voyez là, rouge là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'après Mediapart. Après la dernière dissolution de l'Assemblée, donc avant la législative où le RN espérait bien faire un super succès, Bardella, le président du RN, aurait proposé à Hanouna, Cyril Hanouna, l'animateur de télévision bien connu, la tête de l'ARCOM en cas de victoire. What? Ah, l'histoire elle est dingue. Qu'est-ce que dit Mediapart? Qui essaie de m'appeler ce matin? Ah, ça... ah oui, ça c'est encore... Bah oui. Eh oui, c'est quelqu'un qui veut qu'on fasse des Teams le matin. Pas faire de Teams le matin. Le matin, c'est la revue de presse. Ils seraient très amis, me dit Lucie. Ben, ils sont très amis. Tu peux enlever conditionnel. Et en fait, au-delà même de cette histoire d'Arcom qui est un peu chelou, ce sont toutes ces infos sur la proximité entre Bardella et Hanouna que je n'avais pas, moi, que je trouve intéressante dans cet article. Après la dissolution, Jordan Bardella a proposé, hein, c'est même c'est au présent de l'indicatif, donc c'est pas au conditionnel, a proposé à Hanouna la tête de l'ARCOM en cas de victoire. Alors qu'il se voyait à Matignon. Ah oui, c'est l'époque où le RN pensait pouvoir arriver à Matignon après avoir gagné les législatives avec, par exemple, une majorité absolue. Vous vous rappelez? Après la dissolution ratée du président Macron. Alors qu'il se voyait à Matignon l'été 2024, le président du RN a proposé à son ami animateur de prendre la présidence du gendarme de l'audiovisuel, donc l'ARCOM, selon des informations de Mediapart. Cyril Hanouna assure aujourd'hui que l'offre n'était pas sérieuse. Donc quelque part, Hanouna confirme que cette phrase est bizarre. Quand Hanouna dit que l'offre n'était pas sérieuse, il semble dire qu'on lui a fait cette offre. Bon, soyons prudents. Les intentions de l'extrême droite en faveur des médias, des milliardaires, se font sans cesse plus précises, écrit Mediapart. Le président du RN, Bardella, qui a fait part de son projet de privatisation de l'audiovisuel public mercredi dernier, dans la foulée de l'annonce de la publication du rapport à l'oncle, encore lui, a aussi proposé à l'animateur Cyril Hanouna, dont il est proche, de prendre la présidence de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle numérique, selon les informations de Mediapart. Nerzou parle de dystopie, c'est pas faux, c'est vrai que c'est assez surréaliste. Cette offre de service improbable à la tête du gendarme de l'audiovisuel français, c'est vrai que c'est un peu improbable, hein, Hanouna à la tête de l'ARCOM, a été formulée à l'été 2024, après la dissolution de l'Assemblée par Macron, arrivé en tête aux européennes. Bardella est alors poussé par les sondages flatteurs et les médias Bolloré, dont l'enthousiasme a fini par irradier un grand nombre de ces de rédactions nationales. Aux yeux de beaucoup, une victoire de l'extrême droite au second tour des législatives anticipées est actée, hein, majorité, peut-être même majorité absolue, let's go, Bardella Premier ministre. Le président du RN se prend à rêver à Matignon et aux décisions qu'il pourrait mettre en œuvre à la tête d'un gouvernement d'extrême droite. Finalement, ça ne s'est pas produit. Avec son ami Cyril Hanouna, les deux hommes ont ainsi festoyé ensemble dans la villa de l'animateur à Saint-Tropez le 12 juillet 2024. Je note qu'on ne m'invite jamais aux fêtes, moi. Merci, Je Bac le Fourbe. 5 abonnements à la commu, comme ça, grand prince. Merci à toi. Jamais on ne m'invite aux fêtes, moi. Hein. Il y a une fête chez Hanouna à Saint-Tropez le 12 juillet 2024. Il y a tout le monde. Il y a Bardella, il y a Hanouna, qui sais-je encore. Vous croyez que je pourrais recevoir un petit SMS, quoi? 12 juillet. Moi, je suis en Corse. Mais, hein? Pour m'inviter, quand même. Rien. Walou. Kutchi. Nada. Et donc, avec son ami Cyril Hanouna, Bardella évoque les débats en cours autour de l'audiovisuel et les interventions de l'ARCOM contre les chaînes du groupe de Vincent Bolloré. Merci, Jobac, pour ton message qui fait bien plaisir. Outre ses multiples réprimandes contre l'émission TPMP de Cyril Hanouna sur C8, qui valent à la chaîne de nombreuses sanctions financières, c'est des millions, hein, et provoque des colères régulières de l'animateur, l'autorité administrative indépendante, présidée à l'époque par Roch-Olivier Maistre, qu'on a reçu ici d'ailleurs, je crois, dont le mandat doit cesser quelques mois plus tard, en décembre 2024, émet aussi des critiques quant au rôle de deux autres vaisseaux du conglomérat d'extrême droite, CNews et Europe 1. Donc bref, Hanouna, qui à l'époque bossait pour Bolloré, c'est plus le cas aujourd'hui, parce que maintenant il est dans le groupe M6, hein, W9, avait pas l'ARCOM... dans ses petits papiers. Le 27 juin 2024, à quelques jours du premier tour des législatives, l'ARCOM adresse une mise en demeure publique à la rédaction d'Europe 1, pointant le manque de mesure et d'honnêteté de l'émission On marche sur la tête, programme spécialement mis sur pied par, devinez qui, Cyril Hanouna, pendant la durée de la campagne. Vous savez, où il parlait un peu de politique, tout ça, sur Europe 1. L'autorité de contrôle pointe notamment un traitement de l'actualité électorale largement univoque, soulignant qu'entre le 17 et le 26 juin, 16 invités sur 29 de l'émission de Hanouna représentaient ou soutenaient les partis relevant du bloc d'extrême droite.
Mais non ! Mais hasard de dingue !
16 invités sur 29, c'est pas... Hein ? C'est pas... Hein ? Quand même, si on peut plus inviter qui on veut, si on peut plus, de toute façon on peut plus rien dire de toute façon. Alors, tu risques quoi, Samuel, après cette commission? La commission de l'Assemblée nationale sur le public? Moi, rien. Salut mon Joe. Moi, rien. Et je vous en parlerai un autre jour. L'autorité de contrôle pointe notamment un traitement de l'actualité électorale largement univoque, donc les invités, tout ça. Le lendemain de la mise en demeure, l'animateur star des médias Bolloré fait part de sa colère. Voilà, il y a un acharnement contre ma personne au niveau de l'ARCOM qui est extrêmement grave. Le présentateur fait également part de sa colère à son entourage, y compris à Bardella, avec lequel il échange très régulièrement par message. Moi, je savais pas ça. Prenant de moins en moins de précautions pour se cacher de cette relation. Je savais pas qu'ils étaient proches. Bon, moi, premier degré, je savais pas. Le 12 juin, trois jours après la dissolution, Cyril Hanouna avait été jusqu'à proposer en direct à la zémoriste Sarah Knafo d'arrondir les angles avec le chef de file du RN. Un petit peu entremetteur de l'extrême droite, quand même. Laissant directement un message à ce dernier sur son répondeur. Ce que lui vaudra d'ailleurs d'être sanctionné par l'ARCOM pour ce rôle d'entremetteur. Ah ben, je ne croyais pas si bien dire. Ok, je n'avais pas tout ça. Interrogé sur la proposition faite par Bardella de lui confier les rênes de l'ARCOM, dont la présidence est soumise au vote du Parlement par l'Élysée, sur proposition du Premier ministre. Hein, ouais, mais c'est vrai que Bardella, il voulait être Premier ministre. Okay. Hanouna plaide aujourd'hui l'ironie. C'est une vanne, c'est sûr. Quelle est la réaction d'Hanouna? C'est une vanne, c'est sûr. Explique l'animateur à Mediapart après avoir indiqué ne plus se souvenir des messages en question. Donc il confirme pas vraiment. Hein. Il confirme pas vraiment. Hein. Vous me voyez à la tête de l'ARCOM, interroge celui qui a un temps entretenu une possible candidature à la présidentielle et dont les échanges fréquents avec le patron du RN ont fini par crisper autour de lui. Bon, j'ai l'impression que Hanouna n'a pas confirmé à Mediapart le fait d'avoir reçu cette offre. Hein. Et après la publication de l'article de Mediapart, Bardella a également réagi sur les réseaux sociaux, sur le réseau social X, et il a dit n'avoir jamais proposé la tête de l'ARCOM à Cyril Hanouna. Bon. Hanouna se souvient pas, il dit si c'était le cas, c'était une vanne, et Bardella dit je l'ai jamais proposé. Ironie ou pas, l'épisode illustre la grande proximité entre les deux hommes, bon, ça manifestement c'est vrai, y compris dans le champ politique. Lors de l'arrêt de l'émission TPMP, puis de la chaîne C8, en mars 2025, la non-reconduction, le non-renouvellement de la fréquence TNT par l'ARCOM, vous vous souvenez, après les nombreuses mises en garde et amendes pendant des années. Bardella est à chaque fois monté au créneau, voyant derrière la décision de l'ARCOM un triomphe de la gauche, je cite, et de son sectarisme, voire une attaque sans précédent contre la liberté d'expression. Bon, après, il y a plein de petites infos sur les relations entre Hanouna et le groupe Bolloré, bien sûr, et Bardella. Alors, depuis l'arrêt de C8 Info, Hanouna a pour sa part quitté les rives du groupe Bolloré pour rejoindre le groupe M6, vous le savez, puisque actuellement son émission, là, c'est sur W9, où sa promesse de ne pas faire de politique a rapidement volé en éclats, puisque ce qui était dit, effectivement, c'est que M6 lui avait proposé de faire son talk sur W9, mais à condition qu'il ne parle pas de politique. Ouais. Le soir du 27 avril, donc c'est pas très vieux, et quelques jours dans la foulée du vote sur le rapport à l'oncle, on ne sortira jamais de cette histoire. L'animateur recevait en exclusivité le rapporteur de la commission sur le duel public, voyant dans la publication à venir de son travail un truc de fou. Tu figures à la page 106 du rapport d'Aloncle ? Eh ben tant mieux. Ça m'intéresse, je dirais même plus, ça m'arrange. Mais je vous en parle plus tard. Bon, écoutez, moi je trouve ça un peu bizarre quand même que, pour vous dire le fond de ma pensée, je trouve ça très étrange. Après, je connais aussi la rigueur du média Mediapart, qui est un sacré média d'enquête, vous le savez. Ils en ont révélé des choses. Et ils ont souvent été poursuivis, ils n'ont jamais été condamnés. Voilà. Et donc, je me dis que si Mediapart prend le risque de mettre ces infos en avant, c'est qu'ils ont des billes. Après, je trouve ça tellement fou, tellement what the fuck, que Bardella, ce rêvant Premier ministre, aurait proposé la tête de l'ARCOM, ce qui n'a aucun sens à Hanouna. Bon. En revanche, la proximité entre les deux hommes, ça, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi proches. Quoi. Ouais. Intéressant. On se met ça de côté, parce qu'on voit quand même plein de liens, là. Hanouna, à l'oncle, Bardella, voilà, des choses qu'on peut se mettre de côté pour les prochains mois. Mais je voulais quand même vous donner cette info parce que je savais que certains allaient m'interroger. Tu as vu l'enquête dans Mediapart sur le fait que Bardella aurait proposé à Hanouna la tête de l'ARCOM et tout. Comme ça, c'est lu. Ah, ok. Mediapart jamais condamné. Source judiciaire. Magic Box. Non, Magic Bose 67. Voilà. Si tu as la source d'une condamnation de Mediapart pour une enquête, ouais, n'hésite pas à me la donner. Et je corrigerai aussitôt cette information. Ils ont cette voix, les viewers ? Ouais, les viewers, ils ont cette voix-là. Ils parlent tous comme ça. Ouais, alors Samuel, t'as pas parlé de ça et tout. Il n'y a pas aussi une fille de Brigitte Macron qui est avec Hanouna ? Ça, je suis pas au courant. Ok. Suivant. Moi, j'ai vraiment cette voix-là, me dit Stéphane Gocha. Pardon. Moi, j'ai vraiment cette voix-là, me dit Stéphane Gocha dans le chat. Donc les viewers ont la voix de Mickey Mouse.
Oui, tout à fait.
Bonjour, je suis un viewer et je confirme. Au revoir, me dit Chapatate. Vous voyez, j'ai que des infos ici. T'es cité à plusieurs moments dans le rapport. Bon courage, Samuel. T'inquiète, c'est pas pour moi qui faut souhaiter du courage. T'inquiète, mon chouchou, tout va bien ici. Il y a la régalade qui arrive. Alors, actu suivante. Ah, le PSG. Moi, je dis aller le PSG, moi. Il est où le PSG? Il est où le PSG? C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est Bardella, je vous le dis, qui dément. Hein, il dit qui dément. Ouais, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Ok. Le PSG. Moi, je suis pas supporter du PSG. Je connais rien en foot. Je suis supporter du Stade Rennais, moi, parce que je suis Rennais. Bon, j'y connais rien, mais je trouvais formidable pour que le PSG gagne une deuxième Ligue des Champions. Et au moins qu'il se qualifie pour la finale. Je serais très content pour les joueurs, pour les comment on dit, j'allais dire les militants, comment on dit, les supporters. Donc voilà, moi j'ai envie d'y croire. J'étais gros footix que je suis devant la demi-finale aller. Le 5-4 gagné par le PSG contre le Bayern, je me suis régalé, j'étais debout pendant tout le match, je disais waouh, c'est quoi ce match et tout. On était tous, mes enfants c'est pareil, ils connaissent rien, hein. On est des gros footix, on s'est régalé. Et le Parisien qui nous rappelle que le PSG voyage bien. Hein. Le PSG injouable loin du parc. Après sa victoire 5-4 à l'aller, Paris cherchera la qualification à Munich mercredi soir. Le champion d'Europe veut rester optimiste car il s'est considérablement amélioré en déplacement. Est-ce que, mesdames et messieurs, je vais faire un sondage. Je fais très peu de sondages en ce moment. Est-ce que vous pensez que le PSG va gagner? Qu'est-ce que je suis en train de faire, un raid? C'est où les sondages? Allez, c'est parti. Je fais un sondage. Nouveau sondage. Qui va gagner? Qui va se qualifier? Qui va se qualifier pour la finale? Qui va se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, hein, pas du concours de la plus grosse courge, je sais pas quoi. Hein. Alors, le PSG, la qualification pour la finale, ou le Bayern. Voilà. Je ne sais pas. Bah, sinon, vous faites comme moi, hein, c'est pas parce que vous y connaissez rien que vous n'avez pas d'avis. Hein. Moi, je ne sais rien sur rien, j'ai des avis sur tout. Hein. Donc, 2 minutes, c'est parti. Voilà les résultats. Ok, donc je reviens à mon PSG qui est là. Voilà, en attendant que le sondage. Attention, ça m'envoie toute ta galerie. Tant qu'on voit que la galerie, ça va, hein. Si je puis me permettre. On va aller se mater le match dans un bar mercredi. Moi, je vais voir le match. Hein. Je sais pas où j'irai. J'irai peut-être en. Je sais pas, je vais me trouver un café. J'ai pas Canal Plus. Je vais emmener les enfants. L'école, le lendemain, on s'en fout. Hein. C'est football. Hein. Alors. Qu'est-ce que dit le Parisien? Deux résultats sur trois qualifieront le PSG ce mercredi à Munich contre le Bayern. C'est-à-dire, deux résultats sur trois qualifieront. Ça veut dire quoi? Je comprends rien. Deux résultats sur trois. Ah, parce que nul. Mais ça fait victoire ou nul, mais ça fait que deux résultats, ça. Nul ou victoire, ça fait deux. Pourquoi deux? Ah, bah oui, le troisième, c'est la défaite. Il est con, Samuel. D'accord, ok. Ah oui, bah nul, il gagne aussi. Ça va prendre un 3-0. Moi, je crois que le PSG va gagner son match. Moi, pour moi, ils vont gagner les deux matchs. Moi, c'est mon pronostic. Mon prono, c'est que le PSG gagne sur la pelouse du Bayern. Voilà ce que je dis, moi. Je connais rien, de toute façon. On ira là-bas pour gagner, Martel, l'entraîneur, à chaque tour à élimination directe en Ligue des Champions, quel que soit le score de l'aller. Dans son esprit, tabler sur un nul revient au meilleur moyen de perdre. On cherche à gagner partout, dit le coach. Luis Enrique. Il est incroyable, ce coach, en vrai, non? Qu'est-ce que dit l'article? Pour cette Ligue des Champions 2025-2026, les partenaires de Marquinhos enchaînent les triomphes en terre hostile. Donc à l'extérieur, Barcelone, Leverkusen, Monaco, Chelsea, Liverpool. Donc ils voyagent bien. Le groupe voyage bien. Depuis 2 ans, le 11 n'a perdu que 2 parties. Si on se concentre sur les matchs couperets à Dortmund et à Birmingham contre Aston Villa en quart de finale retour. Le PSG reste coriace en déplacement, capable de résister à la tempête comme à Anfield en quart de finale retour et de placer ses banderilles en transition rapide. Oh, que c'est beau! Ok. C'est vrai que c'est, moi j'y connais rien, mais je trouve que avoir joué, c'est quand même le match la demi-finale aller là avec ces deux équipes en total football là, avec le ballon qui circule à vitesse de la lumière, c'est quand même assez beau à voir quoi. Désormais s'avance le plus grand, et c'est mercredi soir. Le plus grand défi jamais apparu sur la route du PSG, gagner à Munich, invaincu depuis 5 ans à domicile en Ligue des Champions. La dernière fois, c'était contre le PSG. Voilà. Alors, que dit le sondage maison de la commu? Qui va se qualifier pour la finale? 41% le PSG. Le Bayern, 32% quand même. On vous voit les supporters de l'OM, on vous voit. Je ne sais pas, écrit avec les pieds d'ailleurs, 28%. D'accord. Ok. Et on finit avec du vélo, parce que... Alors, moi je vous ai déjà dit, hein, le foot, je n'y connais rien, mais alors le vélo, j'y connais encore moins. Sauf que, à un moment, faut être honnête, j'ai quand même remarqué qu'il y a un jeune homme de 19 ans, qui s'appelle Paul Sexas, un Français, qui éclabousse de son talent, de sa classe, de ses ambitions... la planète vélo. Voilà. Et tout le monde attendait la décision. Va-t-il participer, malgré sa jeunesse, son inexpérience, à son premier Tour de France? Voilà. Et la réponse est oui. Ça vient de tomber. Article du Parisien. C'est aussi la une de l'équipe. Hein, je peux vous le montrer. Bim. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Voilà. Allez, avec un petit effet visuel. Ouais, il y a des moyens ici. Je vous fais les bruits de bouche aussi pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, parce qu'on met des effets... Vivement juillet! Voilà, bref. Donc ça crée un peu l'émoi quand même. Voilà. Un tour avec quelles ambitions? Le coureur annonçait ce lundi qu'il serait bien au départ de la Grande Boucle le 4 juillet face à Tadej Pogacar, le prodige français. C'est vraiment un prodige, hein, pour le coup, les mots ne sont pas exagérés. Il prévient qu'il se présentera avec des objectifs ambitieux. Regarde la vidéo de son annonce, me dit Tib, Samuel, tu vas voir, c'est marrant. Pourquoi c'est marrant? Quelle va être douce cette déraison d'été. Alors là, j'adore parce que parfois sur le sport, vous avez un petit peu de lyrisme dans les papiers. Quelle va être douce cette déraison d'été. On dit Tadej, on dit pas Tadej. Ah oui, je connais rien en vélo, je vous le disais. On dit Tadej, on dit pas Tadej Pogacar. On dit Tadej, on dit pas Tadej, Tadej. Corrigez-moi, hein. Comment qu'on dit? On dit Tadej. Oh putain, j'y connais vraiment rien. Ok. Tadej. Ok. Ça se prononce Bob, me dit Futong. Ok. Quelle va être douce cette déraison d'été? La logique de la patience et de l'apprentissage par étapes, c'est fait pour les autres. Voilà. Les humains, les normaux, pour tous ceux qui ne s'appellent pas Paul Sexas. Voilà. Dans 2 mois, le jeune Lyonnais va devenir le plus jeune coureur depuis 1937 à prendre le départ du Tour de France. Il aura 19 ans seulement, 9 mois et 10 jours, mais un ressenti, il aura 41 ans. Le temps de l'attente depuis la dernière victoire d'un Français, Bernard Hinault en 1985. Vous voyez les espoirs. Est-ce trop long, Sexas est-il trop jeune? C'est bizarre, dans est-ce trop long et Sexas dans la même phrase. Enfin, peu importe. À vrai dire, on se moque des horloges. Paul Sexas a 2 aiguilles à la place des jambes et il file à son allure. Celle qui promet non pas des lendemains qui chantent, mais dès aujourd'hui qui régale. Il sera donc au grand départ de Barcelone le 4 juillet. Comment ça? Hichem, cringe, je t'emmerde, Hichem. Barcelone? Le Tour de France part de Barcelone? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et le Tour d'Espagne, il parle de Paris? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 3 premiers jours départ en Espagne? Mais qu'est-ce que c'est que cette chienlit? Et le Tour d'Espagne, il part d'où? Part de Brest? Je l'avais dit, je connaissais rien. T'es toujours de l'étranger? Ah bon? Ah merde. Ok. Pourquoi ça s'appelle le Tour de France alors? Je connais rien, hein. Ok, super, Barcelone. Il sera donc au grand départ de Barcelone le 4 juillet et ce ne sera pas pour y faire de la figuration. Je me sens prêt, j'aurai des objectifs ambitieux, a-t-il déclaré dans un communiqué. Ce n'est pas mon état d'esprit ni ma conception du cyclisme de m'aligner sur le Tour de France dans un seul objectif de découverte. Je viserai le meilleur classement possible. Le gars ne vient pas pour se balader, quoi. Ok. Bien sûr, Paul Sexas fait partie de cette caste d'hommes qui ne vivent que pour la première place. C'est beau, hein. Mais il va défier Tadej Pogacar. Ouais, parce que les mecs qui y connaissent rien, ils disent Tadej Pogacar. Alors en fait, c'est Tadej Pogacar. Moi, je le sais, ça. Lady Merckx de son siècle. Cette année, le Slovène a l'occasion de remporter son 5e Tour de France pour égaler, entre autres, le Cannibal ou Bernard Hinault. Cannibal. Ah oui, Lady Merckx. Et il continue de remporter presque toutes les courses qu'il dispute. Autant dire qu'on ne voit pas, qu'on ne le voit pas ne pas sourire en jaune sur fond d'Arc de Triomphe le 26 juillet. Sauf accident, Pogacar va gagner. Ce qui signifie, attention, déduction, que Sexas devrait perdre. Et une défaite marque toujours psychologiquement un champion, avait prévenu Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, qui souhaitait voir ce jeune homme s'aguerrir d'abord sur le Tour d'Espagne. Attendez, alors si le Tour de France part d'Espagne, le Tour d'Espagne, il part d'où ? Moi, je pose la question.
Je pose la question, on peut pas poser la question.
On peut poser la question quand même ? Hein ? C'est oublié que même Pogacar avait commencé un grand tour par une troisième place, c'était en 2019 sur la Vuelta, et cela lui avait servi de tremplin. De Monaco ? Le Tour d'Espagne part de Monaco ? Mais c'est quoi ce bordel ? C'est vrai ? On vit vraiment dans une saucisse. L'immense force de Pogacar est en réalité presque une aubaine pour Sexas, elle le préserve d'un engouement trop impulsif autour de lui. C'est bien ça. Voilà. S'il s'incline devant le Slovène et ses 8 ans de professionnalisme, qui lui en voudra ? Qui dira à Sexas : Ah nul ! T'as perdu contre Pogacar. Tadej. La pression pour la victoire finale sera plus forte l'année suivante, en 2027. Cette année, c'est encore le joker du plaisir. C'est pas mal, c'est bien, il est bien cet article. Ok. Alors là, il y a un truc un peu technique là, pour les amateurs. Là. L'avantage de le voir revêtir assez vite le maillot blanc, c'est quoi ? C'est le classement à points, c'est ça ? C'est qu'il va découvrir la longueur. Ah, ou c'est le meilleur jeune, peut-être ? C'est vert le classement à points et jeune et blanc, meilleur jeune, c'est ça ? Puis point rouge, meilleur grimpeur, c'est ça ? Meilleur jeune ?
Meilleur jeune.
De le revoir assez vite le maillot blanc, c'est qu'il va découvrir la longueur des attentes protocolaires subies par les porteurs des maillots distinctifs. Ah ouais, les bouquets de fleurs, tout ça ? Entre podium, signature et contrôle antidopage, ils arrivent souvent après les coéquipiers aux hôtels et mangent seuls. Cet apprentissage invisible servira pour les années futures. Ah. Ok. Alors attention, Paul Sexas n'a jamais disputé une course de plus de 8 jours. Et là, on parle sur 3 semaines, les amis. Et le mur des 3 semaines sera forcément une interrogation. Personne ne sait comment son organisme va réagir à la répétition des efforts et à la tension des kilomètres. Averse et au sprint ? D'accord. Et point alors ? Et le classement, le classement, y a pas un truc avec les points ? Non ? Ah, certains me disent que vert c'est classement par points et d'autres que vert c'est sprinter. Ah, mais les points c'est le sprint ? Ah, ok. J'ai compris. Grâce à vous, je vais devenir un spécialiste du Tour de France, moi. Pas du tout. Bon, je trouve ça très très beau, moi. Voilà. Voilà. On va un peu oublier nos tourments cet été. Moi, je vais suivre le Tour de France. Je vais suivre le Tour. D'habitude, je ne suis pas du tout. Mais là, cette histoire me hype totalement. Voilà. Ok, les beaux gosses ? Voilà. On va pour la revue de presse. Voilà, un petit 2h56, là. Bien, bien, bien. Hein, on avait quand même une belle actu aujourd'hui. Voilà, un peu bousculée, puisqu'on a appris peu avant le lancement de cette revue de presse, de ce stream ce matin, que ça y est, il était tombé. Pas trop bas, parce qu'on va laisser, on va aller le ramasser tout à l'heure. Le rapport du rapporteur Charles Alloncle de la commission de l'Assemblée sur le duel public, il est tombé ce matin, un petit peu avant 7h, il faut le télécharger. Donc il y a déjà des réactions, il y a déjà quelques articles dessus, on les a lus au début de ce stream. Voilà, le Premier ministre Sébastien Lecornu a réagi, ce qui m'a un peu surpris en disant que le truc n'était pas fou. Voilà. Donc, je vais le télécharger cet après-midi. Bon, j'ai un petit peu de travail, parce qu'il faut que j'écrive l'émission d'MVP demain à 10h avec une petite revue de presse de 8h30 à 10h, donc mini revue de presse demain, voilà. À 10h MVP avec les amis Ludovic B, avec Simon Puech, avec Mimi Hegel, on va se régaler, on va parler de plein de choses, on va rigoler, on va parler de d'emploi, d'insertion, de formation, d'orientation, on va aller avec des petits jeux, avec les chroniques Ma vie pro de merde que j'adore, avec enfin, plein de choses, avec un métier mystère à découvrir, avec un débat qu'on aura entre nous sur la nouvelle façon de communication, comment on communique maintenant au sein des entreprises. Est-ce que c'est plus chill qu'avant? Pourquoi les gens s'envoient autant de mails alors qu'ils sont dans les bureaux côte à côte? Est-ce qu'on a le droit aux émoticônes dans les mails de taf, tout ça? Alors on va parler un petit peu de ça, notamment demain. Et puis, c'est pas tout. On se retrouve ce soir. Je vais essayer de vous faire un stream de React au rapport ce soir. Voilà. Donc ça veut dire que cet après-midi, je vais bosser sur l'émission MVP que vous voyez là pour pouvoir vous faire un petit stream React rapport ce soir aux alentours de 20h. Ok, et puis sinon, point d'exclamation, pétition, je vous en conjure, parlez, je vous l'épingle, parlez de cette pétition autour de vous, parlez de cette pétition à vos proches, à votre famille, à vos amis. Voilà. Une pétition qui réclame justement à propos du Parlement une commission d'enquête parlementaire, non pas sur le duel public, mais sur les féminicides. On a un sujet en France, on a un nombre gigantesque de féminicides en France, on a une prise de conscience qui est en train de se mettre en place au niveau des autorités comme de la population, mais c'est trop lent. Voilà. Il y a des textes qui ont été votés, il y a des moyens qui ont été débloqués, mais c'est insuffisant. Il y a un pays en Europe qui a réussi à lutter avec des résultats contre les féminicides, c'est l'Espagne. Il y a des recettes, on sait quoi faire, il faut y mettre les moyens. Il y a une pétition qui a été lancée il y a quatre mois pour réclamer une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, pour que ce débat ait lieu. Voilà. Quand on a découvert cette pétition, la semaine dernière, elle n'avait que 112 signatures en 4 mois. On l'a découverte, on en a parlé, je vous ai invité à en parler autour de vous, amis, proches, famille, mais aussi créateurs, créatrices de contenu préférés. On est arrivé, je vais actualiser, on est passé de 112 signatures jeudi à 9035 signatures. Voilà. C'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En 5 jours, on est passé de 112 signatures à 9035. Continuez ça. Copiez-coller, le lien est en haut du chat. Signez si vous trouvez le texte intéressant, hein. il faut lire le texte qui appelle à cette pétition, il est très court, il est extrêmement clair, il est très bien fait. Donc lisez cette pétition, si vous la trouvez pertinente, parlez-en autour de vous, signez-la si vous trouvez ça pertinent. L'objectif, c'est d'arriver très vite, moi je pense que les 100 000 signatures qui permettront à cette pétition d'être mise en avant sur le site de l'Assemblée est vraiment jouable. Et on a du temps parce qu'il y a une date limite au 19 juin en haut à droite, mais pas 19 juin 2026, 2000 juin 2029. Voilà. Mais il faut le faire là maintenant, il ne faut pas le faire pour 2029, il faut le faire maintenant. Ok ? D'accord ? On fait ça ? Ok, je compte sur vous. Maintenant, on va faire un raid. Alors, qui est en live là ? Alors, qui est en live ? Je regarde qui est en live. Qui on raid aujourd'hui? Beaucoup de gens que j'aime bien là qui sont en live. Vous savez qui on pourrait raid? C'est Ponce. Ponce dont vous m'avez dit qu'il avait justement donné un écho à cette pétition, justement. Il y a sûrement une partie des signatures ici qui viennent de la communauté de Ponce. Donc on va le remercier pour ça et on va le raid. Voilà. C'est parti pour Ponce. Qui est sur quoi? Qui est sur le maître des fleurs, là? Il est sur quoi, Ponce? Quel jour on est? Lican. Ah, c'est le truc... Oh, je connais rien. Bon. Donc, je lance le raid vers l'ami Ponce. On se retrouve ce soir pour le React. Ici, on éteint la caméra, on ne sait jamais ce qui peut se passer après. Les coupures de live ici, vous savez, on est des fous. Voilà. Écran de fin, des bisous. Merci pour tout. C'était un plaisir d'être avec vous ce matin pour parler d'actualité. On se reparle ce soir avec un petit react du rapport là sur les 400-500 pages. Oh là là. Et puis après, il y aura la revue de presse et le MVP de demain. Bisous. Ah, merci pour tout. C'était trop cool. À demain.